Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous, mercredi 15 juillet. Et c'est avec beaucoup de tristesse qu'on se réveille ce matin, un peu la gueule de bois. La France éliminée en demi-finale de la Coupe du Monde, défaite sans appel hier soir contre l'Espagne. Vous vous réveillez peut-être avec cette tristesse au cœur. Venez nous raconter, on en parle ensemble, on essaye d'aller mieux, on essaye de se consoler. Je vous attends au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission 06-12-424-424. On va essayer de comprendre cet échec avec nos spécialistes foot. Éric Dimeco à 7h40, Daniel Riolo à 8h10. Dans 10 minutes, nous passerons aussi un coup de fil à l'ancien membre du staff des Bleus, Philippe Tournon. Il connaît Didier Deschamps par cœur. Il a remporté la Coupe du Monde avec lui en 2018. Il nous dira ce qui a pu se passer. Ce matin, on parle aussi carburant sur RMC parce que les aides gros rouleurs du gouvernement, elles n'ont pas atteint leur cible. C'est assez surprenant, vous me direz. Mais non, c'est la conclusion donc d'un rapport parlementaire. RMC vous le dévoile en exclusivité ce matin. Il aurait fallu baisser les taxes sur les carburants. Voilà le parti pris du député socialiste Philippe Brun à 7h10. Conclusion de ce rapport donc, et puis ça vous fait peut-être réagir. Dites-nous d'ailleurs si vous faites partie de ceux qui ont quand même vraiment demandé ces aides et surtout qui les ont vraiment touchées, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un grand flou autour de ça. Dites-nous si vous avez touché les fameuses aides carburant. J'attends votre témoignage au 3216 ou sur le WhatsApp 06 12 424 424. À 8h30 justement, mon invité ce sera la porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie, Maude Bréjon. Je lui demanderai si ça a servi à quelque chose, ces fameuses aides au carburant, et puis surtout s'ils vont en mettre des plus efficaces. Parce que pendant ce temps-là, le prix du baril remonte. Le détroit d'Ormuz, au moment où l'on se parle, est fermé. Voilà ce qu'affirme l'Iran. Rendez-vous donc à 8h30 avec Maude Bréjon. Il est 6h59 dans un instant de journal de 7h. Mais d'abord la météo, Anthony Kazmarek, la canicule s'atténue un peu.
Oui, la vigilance rouge s'est terminée, mais il reste encore 69 départements en vigilance orange. D'ailleurs, il fait encore chaud ce matin, 16 à 25 degrés déjà. Et cet après-midi, certes, on perd 2 à 5 degrés par rapport à hier, mais encore 31 à Lille, 32 à Paris et Bordeaux, 35 à Toulouse, 37 degrés à Montélimar. Et déjà quelques orages ce matin entre Gironde, Limousin, Poitou-Charente. On va retrouver ce risque orageux dans l'après-midi entre la Bretagne, le centre et surtout sur l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté, où 11 départements seront en vigilance orange pour ces orages violents entre 13h et 18h. Ailleurs, ça restera plutôt ensoleillé avec juste un voile nuageux.
Excellent réveil à tous, il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texard. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On se réveille un peu groggy ce matin, assommé par l'élimination d'une équipe de France bien terne en demi-finale du Mondial, battue 2-0 par l'Espagne au terme d'une rencontre sans saveur. 4 personnes, dont un pompier volontaire toujours en garde à vue ce matin, soupçonné d'être à l'origine de départ de feu à Fontainebleau, incendie désormais fixé et mal ciblé, jugé insuffisante. Les aides de l'État pour répondre à la crise des carburants, résultat d'une mission flash sur le sujet que vous révèle RMC en exclusivité.
L'Espagne, impitoyable avec les Bleus hier soir à Dallas.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
L'équipe de France chute avant la dernière marche, battue 2-0 en demi-finale de ce mondial par notre bête noire, l'Espagne. Une fin d'aventure que beaucoup de Français auraient aimé prolonger et le rêve d'une troisième étoile qui s'effondre, il n'est que provisoire pour certains supporters Camille Borin qui préfèrent retenir le positif.
La défaite de la France, Blandine ne l'avait même pas imaginée.
Moi, j'avais déjà envoyé des messages en disant « on va fêter la victoire des Bleus ». J'étais sûre et certaine.
Pour les supporters, c'est la fin d'un rêve de troisième étoile, mais certains, comme Thomas, retiennent surtout le parcours des Bleus.
Moi, je suis pas déçu parce que c'est vraiment mon équipe de cœur, c'est mes joueurs. Bien sûr, on est fiers. Ils ont montré tellement de bonnes choses sur cette Coupe du Monde. Et là, ça a pas marché, mais franchement, c'est le football.
César tient aussi à rendre hommage à Didier Deschamps, qui vit sa dernière compétition avec l'équipe de France.
Il a fait des grandes choses pour l'équipe. Il nous a ramené une Coupe du Monde, il nous a ramené en finale aussi en 2022. Là, franchement, il a fait un beau parcours, alors qu'il a perdu sa mère aussi. C'est un événement tragique. Franchement, chapeau à Didier. Hein. Il va nous manquer. Ouais.
Quant à Maccabi, il pense déjà à la suite.
Je pense que cette équipe, peu importe la défaite de ce soir, elle a de l'avenir parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux et je pense qu'avec le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane, je pense que cette équipe elle a beaucoup à nous donner.
Mais avant les prochaines échéances avec un nouveau sélectionneur, les Bleus et Didier Deschamps ont un dernier match à jouer dans cette Coupe du Monde, celui pour la troisième place, samedi, face à l'Argentine ou à l'Angleterre.
une place sur le podium samedi qu'il faudra aller chercher avec panache. Les Bleus en ont terriblement manqué hier soir, étouffés par le collectif espagnol. Jean-Louis Tour, vous avez commenté la rencontre pour RMC. On vous retrouve ce matin en direct de Dallas. On pourrait parler de l'arbitrage, de décisions discutables, mais ça n'enlève pas la triste prestation tricolore, pas un frisson. Et que dire du quatuor offensif fantomatique, Jean-Louis, très loin de ce que nous avions pu voir jusqu'ici?
Oui, c'est une déception à la hauteur des attentes que ce trio avait suscité jusqu'à cette demi-finale. Les trois attaquants français, Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, avaient marqué 13 buts et délivré 11 passes décisives en 6 matchs. Mais contre l'Espagne, leur impuissance a sauté aux yeux, muselée par la défense espagnole qui n'a pris qu'un but depuis le début du mondial. Kylian Mbappé sur M6, juste après la rencontre.
Quand on récupérait les ballons hein, sur des récups qu'on a fait un peu, des récups hautes, techniquement, les premières passes, les premières touches, elles n'étaient pas dignes d'une demi-finale de Coupe du Monde. Et on n'a pas su leur faire mal quand on devait leur faire mal.
Et même le fameux réservoir français derrière ces trois stars a failli. Bradley Barcola puis Désiré Doué n'ont pas pu faire de différence dans leur rôle de quatrième attaquant. L'entrée en jeu de Ryan Cherki n'a rien donné non plus pour des Bleus inoffensifs du début à la fin. De quoi faire relativiser le réel niveau de notre attaque que le monde entier nous enviait jusqu'à hier soir.
Jean-Louis Tour, en direct de Dallas, direction Atlanta ce soir pour l'autre demi-finale Angleterre-Argentine, soirée spéciale sur RMC de 20h à 5h du matin, coup d'envoi 21h. Une première victoire sur le front des incendies à Fontainebleau, fixée depuis hier soir. S'il n'est pas éteint, le feu ne progresse plus. 800 pompiers restent tout de même mobilisés contre ce feu qui a parcouru 2000 hectares et à l'origine vraisemblablement humaine. Amélie Lachin, 4 personnes ont été interpellées et sont toujours en garde à vue ce matin.
Oui, 2 ouvriers ont été interpellés hier matin. Ils sont soupçonnés d'être à l'origine du tout premier départ de feu en bordure de l'autoroute A6 dimanche. Selon une source proche du dossier, tous deux auraient été vus par des employés d'une société d'autoroute en train de manipuler une meuleuse à l'endroit même du départ des flammes. C'est en tout cas l'une des hypothèses qui est fait actuellement l'objet de vérifications approfondies par les enquêteurs de la section de recherche de Paris. Et puis les 2 autres mises en cause sont eux soupçonnés d'être impliqués dans 2 autres départs de feu lundi après-midi, l'un à Arbonne-la-Forêt, l'autre dans le secteur de la Faisanderie. Les 2 hommes nés en 2007 n'ont pas d'antécédents judiciaires, mais surtout l'un d'entre eux est pompier volontaire à Fontainebleau. Il a reconnu avoir mis le feu avec des brindilles à l'aide d'un briquet et de l'essence. Il a été suspendu. L'autre dit avoir accidentellement mis le feu en jetant son mégot de cigarette.
Et 36 départements restent ce matin en vigilance orange feu de forêt, 69 sont en alerte orange à la canicule, il n'y a plus de rouge sur la carte. 11 autres départements sont en vigilance orange aux orages du Doubs à la Drôme.
RMC 7h05, Jérôme Barella va être présenté à un juge ce matin.
C'est la première fois qu'il va être entendu par un juge d'instruction. Information de nos confrères de BFM TV, le principal suspect dans la mort de Liana va être extrait de sa cellule ce matin, convoqué en vue de sa mise en examen pour meurtre. Un procès ce matin à Chaumont, en Haute-Marne, celui d'un collégien jugé pour la mort de Mélanie, surveillante de 31 ans, tuée de plusieurs coups de couteau il y a un peu plus d'un an dans son collège de Nogent. L'affaire avait ému la France à l'époque et sur le banc des parties civiles jusqu'à la fin de la semaine. La famille de la victime, son beau-fils Evan Remongin, se prépare à vivre une audience douloureuse.
On est là pour Mélanie, pour son honneur et sa mémoire, et on va tenir le coup, même si il y a peu de chance que le jugement nous satisfasse. On sait pertinemment qu'il ressortira un jour, et ça, c'est un peu un problème pour nous. Vous vous dites, dans 20-30 ans, vous allez voir votre père, vous allez manger chez lui un dimanche, et lui, qui aura tué un membre de votre famille, il sera dans le village d'à côté en train de faire pareil. Si vous mettez ça en perspective, vous vous doutez bien, vous imaginez bien le passement au cœur que ça peut faire. Quoi qu'il puisse dire, ça ne changera rien dans tous les cas, mais s'il a ne serait-ce qu'un début de réponse sur pourquoi du comment, ce sera sûr ça de pris, mais comme j'ai dit, ça ne changera rien dans tous les cas.
La fin d'un long parcours parlementaire pour la loi ouvrant un droit à mourir qui doit être, sauf surprise, adopté par l'Assemblée nationale. 4e et dernier vote pour les députés après 4 ans d'interminables débats. Le Premier ministre Sébastien Lecornu saisira dans la foulée le Conseil constitutionnel afin de répondre aux préoccupations des opposants à la réforme. Philippe Brun est votre invité, Apollina. Après ce journal, le député PS de l'Eure, candidat à la présidentielle, viendra présenter en exclusivité sur RMC le rapport de la mission flash sur la taxation des carburants et le rendement fiscal de la hausse des prix, dans lequel on apprend que les mesures du gouvernement ont été trop faibles face à la hausse des prix. C'est le cas des aides jugées inefficaces, Victor Joannin.
Oui, à commencer par l'aide gros rouleur 100 euros, un montant très insuffisant pour les ménages ruraux. Les plus modestes ne sont pas aidés à la hauteur de leurs besoins, regrette le député. Il pointe le fait que cette aide a été demandée par seulement 24% des automobilistes éligibles, 40% corrige Bercy qui dispose de chiffres plus récents. Selon Philippe Brun, ce versement ciblé ainsi que les aides sectorielles dont ont bénéficié les transporteurs routiers ou les pêcheurs ne sont pas parvenus à endiguer l'inflation. Le gouvernement aurait dû déclencher un plan plus ambitieux, comme en Grèce ou encore en Espagne, où les pouvoirs publics ont décidé de baisser les taxes sur les carburants, même si, reconnaît le député, les comptes publics sont dans un bien meilleur état de l'autre côté des Pyrénées.
Et vous venez de l'entendre dans ce rapport, on pointe que seuls les deux tiers, enfin que les deux tiers de ceux qui sont éligibles, qui étaient éligibles à ces aides, ne les ont même pas demandées. Dites-nous, appelez-nous au 3216. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont demandé les aides et qui les ont surtout perçues? Est-ce que ça y est, c'est sur votre compte en banque? Ou est-ce que finalement vous vous êtes découragé, pensant que vous n'étiez même pas sûr d'être éligible? Appelez-nous au 3216 et venez donc interpeller Philippe Brun, le rapporteur de ce rapport flash sur les aides carburant.
La tension qui ne retombe pas au Moyen-Orient, marquée par des échanges de frappes cette nuit entre Américains et Iraniens, avec une conséquence, la fermeture du détroit d'Ormuz jusqu'à la fin des actes d'agression, c'est ce que dit Téhéran ce matin. Tadej Pogacar sur la route du Tour qui écœure la concurrence au sommet du Lioran, troisième victoire pour le Slovène qui s'impose en solitaire avec plus de 3 minutes d'avance au général. Du plat au programme de la 11e étape aujourd'hui sur RMC, 161 km entre Vichy et Nevers, à vivre sur notre antenne.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09. Et les Bleus n'iront pas en finale de la Coupe du Monde.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols.
L'Espagne était trop forte. Énorme déception. Bonjour Philippe Tournon.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien chef de la presse de l'équipe de France. Vous les avez accompagnés pendant 30 ans. Vous avez tout connu avec les Bleus, des défaites et deux victoires en finale de Coupe du Monde. On est quand même tombé de très haut hier soir. C'était une défaite sèche.
Oui, la déception est proportionnelle à l'immense espoir qu'avait suscité cette équipe tout au long de son parcours depuis 4 semaines. Donc le propre du sport, c'est d'être au rendez-vous le jour J, pas avant, pas après. Et force est de constater qu'hier soir, l'Espagne a été largement au rendez-vous qu'on attendait, même un peu au-dessus de son niveau, alors qu'à l'inverse, l'équipe de France n'était pas au rendez-vous, a été largement inférieure à tout ce qu'elle nous avait proposé jusque-là.
On ne les reconnaissait pas. Est-ce qu'on s'est vu trop beau?
Non, je pense pas. Je connais bien Didier Deschamps. Certainement qu'il a mis son groupe en garde contre un excès de confiance. Parce qu'on sait que, quel que soit le sport, le français qui est favori et auquel on tresse des louanges n'est jamais très, très confortable dans ces moments-là. Mais non, il y a eu une absence, comme s'il n'y avait plus de jus, comme si on mettait le contact et le moteur ne démarrait pas. Et physiquement, techniquement, tout ce qui avait marché jusque-là ne marchait pas. On les avait appelés les méchants, ils n'étaient plus méchants du tout. Non. Après le but, il n'y a pas eu de réaction. Voilà, c'est tout a raté.
Pas assez méchant et effectivement globalement raté. On a un petit côté mauvais joueur, nous les Français, et on a entendu Didier Deschamps lui-même aller vers l'idée d'une remise en cause de l'arbitrage. Est-ce que franchement c'est à la hauteur ça?
Non, je pense pas. Mais Didier a été assez nuancé. Ces dernières déclarations se terminent toutes par un hommage ô combien mérité.
Oui, c'est juste.
Qui a été impressionnant de maîtrise technique, de justesse dans le jeu. C'était tous les olé qui montaient qui descendaient des tribunes, ponctuaient ces séquences de passes à 10. On se serait cru à l'entraînement. C'était assez hallucinant.
Alors justement, je voudrais qu'on puisse donner la parole à Manon, parce que Manon, elle est à Madrid, auditrice en Espagne. Bonjour Manon.
Bonjour.
Vous l'avez vu où ce match? Comment on fait quand on est français en Espagne?
Hier, j'étais invitée à une réception pour le 14 juillet à l'ambassade de France. Donc du coup, j'étais entourée de Français et plus précisément de franco-espagnols.
Ouais.
Donc il y avait à la fois de la déception et aussi du contentement parce que tout le monde était un peu pour les deux.
un peu pour les deux et finalement quand même heureux pour les Espagnols. C'est évidemment un moment de grande déception quand même quand on a la moitié du cœur en France et en même temps respect quoi. Les Espagnols ont été exceptionnels.
Oui, il y avait pas trop de doutes. C'est bon, le foot c'est jamais fini jusqu'au coup de sifflet d'arbitre, mais c'est vrai qu'on a assez vite vu que c'était pas la même ambiance que les premiers matchs.
Et côté espagnol, ce matin, tout le monde est en feu.
Oui, même cette nuit.
Même cette nuit, j'imagine. J'imagine qu'il y a eu peu de sommeil cette nuit. Philippe Tournon, la suite, Zinedine Zidane.
Ben, il y a une petite finale à jouer d'abord. Il faut espérer qu'elle.
C'est vrai. C'est vrai, j'avoue.
Bien que Didier Deschamps et son groupe méritent largement de sortir par la grande porte de cette Coupe du Monde, même si le dernier rendez-vous a été raté dans les grandes.
C'est une grande petite porte, hein, quand même, pardon, mais.
Ben oui, c'est une petite porte, c'est une troisième place, c'est une médaille de bronze qu'on doit aller chercher quand même.
Qu'on doit aller chercher. Et puis ensuite, effectivement, on commence tous à se projeter. Est-ce qu'on a le droit de se projeter et comment vous voyez la suite?
C'est pas officiel, mais ce serait une énorme surprise si Philippe Diallo n'annonçait pas dans les prochaines semaines le nom de Zinedine Zidane.
Est-ce qu'il ne faut pas le faire très vite?
Je pense que c'est le souhait de la fédération de ne pas laisser traîner les choses. Par correction, par décence, ils attendent que Didier Deschamps ait tiré sa révérence. Mais je pense que dans les minutes qui vont suivre, mais dans les jours qui vont suivre, certainement que le nom de Zidane va être lâché officiellement.
Merci beaucoup Philippe Tournon, vous qui avez dirigé donc pendant 30 ans le service de presse de l'équipe de France. Merci d'avoir débriefé avec nous. On en reparle à 7h40, on sera avec notre fil rouge Eric Dimeco. À 8h10, on sera également sur ces questions-là avec vous tous. Il y aura Daniel Riolo qui sera en studio, vos témoignages au 32-16. Merci à Manon depuis l'Espagne, il est 7h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les aides carburant, vous vous souvenez? Est-ce que ça a vraiment marché? Elles étaient censées compenser la hausse du prix du carburant. Eh bien non, elles n'ont pas atteint leur objectif. C'est la conclusion de votre rapport, Philippe Brun. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député de l'Eure et rapporteur de cette mission flash sur le sujet. Vous dévoilez ce matin en exclusivité sur RMC votre travail. Il aurait mieux fallu baisser les taxes comme en Espagne. Décidément, l'Espagnol, ils font tout mieux ce matin. Allez, il est 7h15. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h18 sur RMC et sur RMC Story. Les aides gros rouleurs, vous vous souvenez du gouvernement? Eh bien, elles étaient mal ciblées et insuffisantes. Quelle surprise! Voilà la conclusion de votre rapport. Bonjour Philippe Brun.
Bonjour.
Vous nous dévoilez en exclusivité ce matin sur RMC les conclusions. Vous êtes député socialiste de l'Eure. Vous êtes par ailleurs, et vous l'aviez dit ici même, candidat déclaré à l'élection présidentielle, enfin à la primaire socialiste. Vous le dites ce matin, la France aurait dû baisser les taxes sur les carburants comme l'a fait l'Espagne. Pourquoi?
Parce qu'en vérité, l'aide mise en place par le gouvernement, elle n'a concerné personne. On a un taux de recours de seulement 24%. Et l'aide, elle a coûté à peine 70 millions d'euros, soit vraiment l'épaisseur du trait pour les finances publiques. Et dans le même temps, il y a eu un effet économique assez désastreux de cette hausse des prix. Une augmentation importante de l'inflation, donc du coût de financement de notre dette, puisqu'on a 10% de notre dette qui est indexée sur l'inflation. Ça va nous coûter 3,7 milliards en plus cette année. Et puis, un drame social dans nos campagnes, dans les zones périurbaines, où les gens qui font, comme dans ma circonscription, 60 km de trajet domicile-travail par jour, se retrouver privé du moyen d'aller travailler. Et donc, je compare cette situation avec l'Espagne, où là, il y a eu une vraie baisse de taxes et un impact très positif pour la croissance, pour un coût en vérité limité pour les finances publiques, puisque les mesures espagnoles, elles n'ont coûté de manière très ciblée que de 580 millions d'euros. Ces 580 millions d'euros, ils ont permis de soutenir l'économie, ils ont permis de faire baisser le chômage, ils ont permis aux Espagnols de garder leur pouvoir d'achat.
Donc nous, non seulement c'est arrivé trop tard, mais c'était mal ciblé. Et on a quand même aussi l'impression qu'un certain nombre de personnes qui auraient pu y prétendre ne l'ont même pas demandé, hein, vous le dites. Vous, votre chiffre, c'est en gros 2/3 effectivement des personnes qui sont éligibles ne l'ont même pas demandé. Bercy qui précise que ce serait 60% en effet qui ne l'ont pas demandé. Alexis, lui, a demandé les aides, mais je crois ne les a toujours pas perçues. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alexis, vous êtes cheminot dans le Nord, à Gravelines. Racontez-nous.
Quand la mesure est sortie, c'est un collègue de boulot qui me l'a envoyée.
Ouais.
Donc bah, j'en ai profité, j'ai dit, bah, j'avais 5 minutes. Donc j'ai pris ma carte grise, j'ai pris ma feuille d'impôt, j'ai fait tout le dossier qui est passablement pas forcément évident.
Mmh, oui, déjà, c'était une épreuve.
Arrivé au bout, on me dit, vous allez recevoir un mail de confirmation quand tout va bien.
Okay.
2 semaines après, je reçois un refus. Donc, ma voiture n'est pas éligible.
Sous quel argument ?
La voiture n'est pas éligible, il n'y a rien d'autre. Donc ce que je fais, c'est que moi j'appelle, ben, il y avait un numéro, un 0809 dans mon souvenir.
Ouais.
Au bout de 20 minutes, je tombe sur quelqu'un qui est excédé parce que ça doit être le 812e coup de téléphone qu'elle reçoit dans la matinée.
C'est sûr.
Mmh. Et elle me dit, monsieur, je comprends pas. Ah si, votre voiture est une hybride. Je dis oui, mais c'est une hybride il y a 10 ans, une hybride non rechargeable, donc bien dans les critères.
Ouais.
Elle me dit, bah écoutez, monsieur, je vous rappelle. Bon,
ouais.
Je lui attendais, est-ce qu'elle me rappelle pas ? 2 jours après, cette brave dame m'appelle.
D'accord.
Elle me dit, ah monsieur, il y a un bug, ce sera résolu fin de semaine. C'était fin juin.
Ouais.
Alors là, je redonne un coup de téléphone, il y a quoi ? Il y a 2 semaines de ça.
Mmh.
On m'a dit, ah oui, bah pour les hybrides, ce sera fait en manuel, mais pas avant mi- voire fin août. Ouais, donc en gros, je crois que mes 100 euros, je peux m'asseoir dessus. Hein.
Donc effectivement, ça c'est vraiment le symbole. Non mais Alexis, c'est très intéressant votre témoignage. Alexis, qui est cheminot, vous roulez combien pour aller au boulot ?
À 70 km à peu près.
Voilà, exactement le type de profil dont vous parliez, Philippe Brun. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela ?
Bah, on a en fait arrosé les gens de CERFA et de procédures complexes pour en bénéficier. Et puis c'est arrivé de toute façon trop tard. Je rappelle que l'essence, le gasoil, ça explose à partir du 28 février, que le portail d'aide il a été ouvert fin mai et que les gens ont commencé à toucher les aides au mois de juin pour ceux qui ne sont pas comme monsieur dans une situation complexe. Cette aide, elle a servi à rien. On a arrosé du sable en vérité. On n'a pas aidé les gens à défendre leur pouvoir d'achat. Et là aujourd'hui, je suis inquiet, Pauline de Malherbe, parce que l'essence, le gasoil, il réaugmente. Vous couvrez sur votre antenne les tensions qui remontent en Iran. Et au cours de l'été, les gens qui vont devoir rentrer de vacances, ceux qui vont partir, qui ont leurs plans qui sont déjà faits, leurs locations, leurs campings qui sont déjà réservés, ils vont se retrouver à payer à nouveau une essence au-dessus de 2 euros. Moi, chez moi, à Louviers ce matin, le gasoil était déjà au-dessus de 2 euros et ça va continuer. Moi, ce que je propose, c'est qu'on adopte le plan espagnol, c'est-à-dire...
Vous dites qu'il est toujours temps, c'est-à-dire oui. Que je recevrai tout à l'heure la porte-parole du gouvernement et ministre de l'énergie, Maud Bréjon, à 8h30. Qu'est-ce que vous lui dites ?
Je dis qu'il faut faire comme en Espagne. Il faut non pas baisser, comme le propose le RN tout le temps, les taxes, ça n'a pas de sens, ça coûterait beaucoup trop cher aux finances publiques, mais quand on dépasse 2 euros, il faut qu'on ait une baisse temporaire des taxes pour défendre le pouvoir d'achat et faire baisser l'inflation. Une inflation élevée, je rappelle, c'est une dette qui explose, 3,7 milliards de plus, c'est des grandes difficultés pour notre économie. Je rappelle que notre croissance, nos prévisions de croissance, elles ont encore baissé à 0,9. Donc investir, si vous voulez, sur le carburant d'une certaine manière, c'est investir sur le reste de l'économie, sur la logistique, sur le transport, sur le pouvoir d'achat des Français. Il faut le défendre. Dans cette période
il y a
de
quand
vacances.
Même un point que vous tranchez dans votre rapport, c'est qu'il n'y a pas eu de cagnotte cachée, il n'y a pas eu d'argent miracle. L'État ne s'est pas enrichi sur notre dos pendant cette hausse des carburants.
Voilà, alors on regarde, c'est à peu près neutre. L'État a un peu gagné d'argent en vérité. Quand on prend tous les mois jusqu'au mois de juin, il a gagné à peu près 40 millions d'euros, ce qui est absolument rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un effet volume. Enfin, les gens, ils ont essayé. Chez moi, j'ai un supermarché qui est à côté d'une zone pavillonnaire et de cité. Enfin, je voyais les gens qui aller à pied au supermarché, alors qu'avant ils prenaient leur petite voiture pour faire 1 ou 2 kilomètres, ils se sont mis à le faire en caddie pour éviter de payer leur essence. Et puis il y a des professionnels qui ont aussi reporté leur achat de fuel. Un agriculteur qui a une cuve à fuel, par exemple, il a reporté
en espérant pouvoir le faire à un moment ça serait redescendu.
Voilà, pour mettre dans son tracteur ou dans sa moissonneuse. Bon, alors ça... Du coup, c'est un effet volume, et l'effet volume a compensé l'effet prix. Mais à la fin, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que l'économie est la grande perdante. C'est-à-dire que les entreprises françaises, les consommateurs, les gens qui vont travailler chaque jour, ils en ont payé le prix, et ça va se voir dans les statistiques de la croissance à la fin de l'année.
Merci beaucoup, Philippe Brun, de nous avoir donné les conclusions donc de votre rapport flash sur ces aides au carburant. Vous êtes député socialiste de l'Eure et candidat déclaré à la primaire de la gauche. Notez qu'à 8h30, donc mon invité, ce sera la ministre de l'énergie et porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Alexis, vous nous direz si vous les touchez fin août, vous nous appellerez en septembre ? Je ne sais pas si Alexis est toujours avec nous, je crois qu'il est là. Vous nous direz.
Avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour votre témoignage, 7h24 sur RMC. Et c'est l'heure d'accueillir Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Parce que comme tous les matins avec vous, on va remonter le temps et vous allez nous raconter ce matin l'une des plus vieilles histoires du monde qui arrivera à nouveau au cinéma.
Et oui, vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée, hein, le réalisateur Christopher Nolan a sorti les très très gros moyens pour adapter ce best-seller
qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ.
Vous nous le racontez dans 20 secondes, tout pile. Il est 7h25 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h25 et c'est l'heure de remonter le temps comme chaque jour avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Aujourd'hui, c'est la sortie d'un des films les plus attendus de l'année.
Le roi d'Ithaque va revenir.
Ne crois pas ça.
Film XXL de près de 3 heures, 250 millions de dollars de budget. C'est un des plus gros jamais dépensés par Christopher Nolan. Le tournage a eu lieu dans 6 pays avec des scènes tournées en pleine mer. Et évidemment, c'est un casting 5 étoiles avec notamment Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway ou encore Charlize Theron.
Ce film est donc l'adaptation de l'Odyssée qui est l'un des plus vieux textes de l'Occident.
Et oui, l'Odyssée, c'est la suite d'un autre livre qui s'appelle l'Iliade. Ce texte date du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est un récit d'aventure, mais avec une forme originale, puisqu'en fait, l'Odyssée, c'est un poème, un très long poème épique de 12 000 vers.
Alors de quoi ça parle ?
Alors voilà l'histoire, le héros s'appelle Ulysse, il a combattu pendant la guerre de Troie, une guerre mythologique qui a opposé donc les Grecs aux Troyens. Cette guerre de Troie, entre nous, on ne sait pas vraiment si elle a eu lieu. Bref, Ulysse s'est bien battu, maintenant il doit rentrer chez lui, C'est dans l'île d'Ithaque, une île dont il est le roi. Sa femme, Pénélope, l'attend là-bas, dans son île, sauf que, pendant son voyage, eh bien, il va affronter mille péripéties. C'est le sujet de l'Odyssée.
À l'origine, qui est l'auteur de ce livre ?
Alors d'abord, précisons que tout ça, c'est quand même très très ancien, donc on est sûr de rien à 100%. Mais a priori, l'auteur de l'Odyssée, c'est un poète grec qui s'appelle Homère, qui a donc vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. On ne sait pas grand-chose de sa vie, mais ce qu'on sait, c'est qu'il était aveugle et surtout que c'était une énorme star de la littérature à l'époque qui était admirée et connue dans toute la Grèce.
L'Odyssée, c'est un livre mythique. En fait, ça date de quand la renommée de l'Odyssée ?
Alors justement, il faut se rendre compte de l'étendue du phénomène. Apolline, c'est un cas unique. Depuis 2500 ans, on lit et on étudie l'œuvre d'Homère dans toute l'Europe, en Grèce, à Rome, au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'à aujourd'hui évidemment. En gros, c'est un livre aussi important que la Bible dans notre culture. À ce jour, l'Odyssée compte 250 traductions, 920 éditions différentes et plus de 45 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.
Avant ce film de Christopher Nolan, est-ce que ça avait déjà été adapté au cinéma ?
Plein de fois, évidemment. La toute première, ça date des tout débuts du cinéma. C'était en 1905. C'était un film muet de 4 minutes qui s'appelait L'île de Calypso où Ulysse et le géant Polyphème. Mais l'adaptation qui va cartonner, c'est un péplum sorti en 1954 qui s'appelait tout simplement Ulysse. Et dans le rôle titre, c'était Kirk Douglas. La dernière adaptation est très récente, c'était en 2024. Ça s'appelait The Return, le retour d'Ulysse. Et c'était avec, entre autres, Juliette Binoche.
Merci beaucoup Arthur, Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. L'Odyssée de Christopher Nolan. Nolan, ça sort aujourd'hui en salle. Il est 7h28. Vous avez bien fait de choisir RMC. On est ensemble jusqu'à 9h. Restez bien avec nous dans un instant. La météo et le journal de 7h30. Et puis juste après, on sera avec un des pompiers de Fontainebleau. Le feu semble fixé. À tout de suite. Il est 7h29 et la canicule commence à être derrière nous.
Oui, plus de vigilance rouge, mais encore 69 départements en vigilance orange, donc quasiment 70% du territoire. Et puis aussi une vigilance orange aux orages vers le centre-est du pays. D'abord les températures ce matin, toujours très élevées, entre 18 et 25 degrés. 25 déjà à Nice et à Marseille, 24 à Paris. Et cet après-midi, 2 à 5 degrés de moins qu'hier, mais ça reste très chaud. 32 pour Paris, 30 à Strasbourg, jusqu'à 37 degrés à Montélimar, 36 à Lyon et à Bourges. Et puis ces orages qui sont pour l'instant peu nombreux ce matin, surtout vers la Gironde, Poitou-Charentes, le Limousin, et on va les retrouver cet après-midi entre la Bretagne, les régions centrales et donc ces 11 départements du centre-est entre Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes qui seront en vigilance orange entre 13h et 20h. On craint la grêle et les fortes rafales de vent. Quelques averses peut-être en Ile-de-France en fin de journée et ailleurs, c'est encore le soleil qui va s'imposer.
7h30 sur AMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Réveil brutal pour les Bleus, pas de troisième finale consécutive en Coupe du Monde. Les hommes de Didier Deschamps n'ont rien pu faire face à l'Espagne, défaite 2-0. Les Espagnols, eux, rêvent de seconde étoile. L'incendie de la forêt de Fontainebleau fixé, les pompiers toujours mobilisés, 4 personnes en garde à vue ce matin. Un moment décisif pour les patients et leurs familles, les députés tranchent définitivement aujourd'hui sur l'aide à mourir après 4 ans de débat.
La marche espagnole était trop haute.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Les Bleus ont été surclassés par l'Espagne. Défaite 2-0. Ils ont semblé dépassés, méconnaissables. Un pénalty encaissé en première mi-temps, puis un second but à la 58e minute. Constat lucide après le coup de sifflet final de Ryan Cherki.
Pour l'instant, on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
Ryan, le premier coup dur du match, ça a été le pénalty concédé par Lucas Digne. Comment il se sentait à la mi-temps, à la fin du match?
Tu penses que je vais te répondre quoi? Il pleurait, on l'a mis la tête dedans. Non, c'est des faits de jeu, c'est le football. À la mi-temps, on était tous ensemble. On savait que le deuxième but, il allait être super important. Parce que dans un match comme ça, 1-1, c'est super dur à défendre. 2-0, c'est plus la même histoire. Aujourd'hui, la déception, elle est immense.
Une soirée cauchemardesque pour les Bleus et autre ambiance en Espagne. Scène de joie jusqu'au bout de la nuit. Les Espagnols vont disputer leur seconde finale de Coupe du Monde de leur histoire. Justement, Edgar Grollo, correspondant RMC à Madrid, vous êtes en direct avec nous ce matin. Après la démonstration hier soir face aux Bleus, les Espagnols se sentent invincibles.
Oui, en Espagne désormais, on en est sûr, nous avons la meilleure équipe du monde. Voilà le message porté par la presse locale ce matin. La Roja a écrasé les Bleus selon le journal Marca. C'était une soumission, écrit le Mundo Deportivo. Le quotidien madrilène AS félicite une équipe extraordinaire. Des louanges qui vont dans le sens du discours du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, interrogé après la rencontre.
Nous avons peut-être affronté l'une des meilleures sélections du monde, mais ils avaient en face d'eux la meilleure équipe du monde. J'ai toujours dit que pour moi, le footballeur espagnol est le meilleur du monde. Il sait parfaitement comment agir en attaque et en défense.
En attaque, les Espagnols sont les premiers à marquer 2 buts aux Bleus dans ce mondial. En défense, ils ont une nouvelle fois gardé leur cage inviolée comme lors de 6 de leurs 7 matchs dans la compétition. Une domination absolue qui a convaincu tout le pays ici. Pas l'ombre d'un doute pour les Espagnols. Leur équipe va remporter sa deuxième Coupe du Monde dimanche. En attendant de connaître le nom de leur adversaire, les supporters et la presse assument leurs préférences. L'Espagne rêve de battre l'Argentine de Lionel Messi en finale.
Edgar Grollo en direct de Madrid pour RMC. Le mondial n'est pas fini pour les Bleus. Il reste un objectif pour la dernière de Didier Deschamps sur le banc. La 3e place samedi. Les supporters français présents hier sur le Vieux-Port de Marseille saluent déjà sa carrière et pensent déjà à la suite.
Deschamps, on l'a connu depuis qu'on est tout petit. Enfin, moi, je suis né avec, quoi. Forcément, ça fait un truc de voir sa dernière sélection. Franchement, c'est dommage que ça se termine comme ça, quoi.
Et vous voyez qui en prochain sélectionneur?
Ah, Zidane. Obligé, Zidane. Ah,
Zidane, on voit personne d'autre. On est à Marseille, c'est important.
Zidane, important.
Rien que par son charisme, son aura, qui peut apporter un truc. C'est pas encore officiel, mais je vois pas qui on pourrait mettre d'autre. Après, j'aimerais pas être à sa place, parce que la pression qu'il a de passer derrière Dédé, c'est violent, mais voilà. Tout repose sur toi, Zinedine, on t'attend.
Qui va rejoindre l'Espagne en finale? Réponse ce soir, l'Angleterre défie les champions du monde en titre. L'Argentine, coup d'envoi à 21h à suivre sur RMC. RMC 7h34, soulagement ce matin. L'incendie de Fontainebleau est fixé. 4 personnes, dont un pompier volontaire, ont été interpellées et actuellement en garde à vue. Le feu lui a parcouru depuis dimanche plus de 2000 hectares. Feu qui est donc fixé. Mais la mission des pompiers est loin d'être terminée. Explication du préfet de Seine-et-Marne, Pierre Horry.
On peut considérer que ces 2 feux sont fixés. Ils sont fixés, ça ne veut pas dire qu'ils sont éteints, soyons clairs. Ils sont fixés, ça veut dire qu'ils sont bloqués dans leur périmètre. Ça impose aux pompiers de continuer à être extrêmement présents, évidemment, dans les jours, peut-être les semaines qui viennent. Le combat va continuer. On compte évidemment sur une météo qui devrait continuer à être de plus en plus favorable avec, vous le savez, peut-être des orages annoncés, de l'eau qui peut tomber, devrait faciliter un peu la manœuvre des pompiers.
Et les personnes évacuées vont pouvoir retrouver leur logement aujourd'hui. 36 départements sont toujours en vigilance orange feu de forêt entre le Nord, l'Île-de-France ou encore le quart sud-est. Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Liana, début juin dans le Gers, va être entendu aujourd'hui par un juge d'instruction. C'est ce que nous apprend ce matin BFM TV, convoqué en vue de sa mise en examen pour meurtre.
Et puis un vote très attendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Après de longs mois de débats, les députés sont appelés à adopter définitivement le droit à l'aide à mourir. Une réforme qui légalise l'euthanasie, autorise le suicide assisté. Une décision qui deviendrait un symbole et une victoire pour de nombreux Français, notamment Geneviève, enseignante retraitée de 76 ans et atteinte depuis 10 ans de la maladie de Parkinson, que vous avez rencontré, Louise Salé, dans le Finistère.
Je pense que ça va être bon. Hein.
Dans sa cuisine, Geneviève a le sourire, mais sa main qui tremble peine à ciseler le persil.
Parfois, je n'y arrive pas. Là, je me sens raide. À certains moments, je souffre trop. Moi, je veux pouvoir dire ça suffit. J'ai fait un pré-dossier pour aller en Belgique. Mais j'aimerais bien que ça soit chez moi. Ça peut être cet hiver, par exemple. Je donnerai rendez-vous à mes enfants et mes petits-enfants et je leur dirai au revoir à chacun. Et je l'aurais choisi, oui. Moi, je suis en fait très exigeante par rapport à l'existence. J'ai envie de vivre, mais vivre bien.
Son mari Michel soutient sa décision, même s'il a du mal à retenir ses larmes.
Nous, on en a parlé avec nos enfants. Alors au début, ça a été plus ou moins bien accepté. Finalement, ça a été bien accepté pour que ça se passe calmement. On est serein, quoi.
Pour Geneviève, l'adoption du projet de loi aura le goût d'une victoire.
Au moment du vote définitif, je crois que je serai soulagée. Je pourrai mourir dans de moins mauvaises conditions, quoi. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Brel.
Mourir, la belle affaire.
Un reportage de Louis Salé dans le Finistère. Et puis, vous l'avez vécu sur RMC hier, le show Pogacar sur le Tour de France. Le Slovène a remporté en solitaire la 10e étape et a accentué son avance au classement général. Le Français Paul Sexas termine 3e. Place aujourd'hui à la 11e étape entre Vichy et Nevers. L'intégral Tour sur RMC, c'est dès 14h.
Et puis, le quintet, c'est à Lisieux aujourd'hui.
Le pronostic de Dimitri à Blanc-l'œil. Son favori, hélas, Jenna Dessart. Et son outsider, le 10, Joyce Pile.
C'était le journal de Clément Gouitz, il est 7h37 et puis vous le disiez dans votre journal Clément, le feu de Fontainebleau fixé. Bonjour commandant Paul Lorrain.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service communication des pompiers du département de Seine-et-Marne, le feu qui a donc ravagé plus de 2000 hectares à Fontainebleau est semble-t-il fixé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Effectivement, c'est la bonne nouvelle d'hier. En fin de journée, le préfet a annoncé que les deux feux, celui de proximité de Fontainebleau et celui de proximité de l'Assis, sont dorénavant fixés. Ça veut dire qu'on va enfin pouvoir commencer les opérations de noyage avec les sapeurs-pompiers au sol et les moyens aériens, des opérations qui vont prendre encore un peu de temps.
Fixé, ça ne veut pas dire éteint, hein. Ça veut juste dire qu'effectivement, il est retenu en quelque sorte, qu'il ne progresse plus, c'est ça ?
Exactement. Fixé, ça veut dire qu'il ne progresse plus, qu'on a réussi à disposer des pompiers sur tout son pourtour. Et donc, on s'assure qu'il ne sortira pas du périmètre qu'il a déjà parcouru. Mais effectivement, le feu n'est pas encore éteint. Il reste pas mal de fumerolles, c'est-à-dire des morceaux incandescents dans le feu, des souches ou des morceaux de tourbe qui continuent à brûler. Et donc, ils vont nécessiter encore des actions avec de l'eau pendant les prochains jours.
Outre vos actions, d'ailleurs, vous espérez peut-être que les orages annoncés ce soir puissent participer au fait d'éteindre ce feu.
Effectivement, on est particulièrement vigilant à la météo. Alors d'abord pour se prémunir d'une hausse du vent ou de la température. Et la bonne nouvelle qui devrait nous arriver, c'est de la pluie ce soir et demain dans la journée. Donc on est très attentif à cette aide qui pourrait nous venir du ciel et nous accompagner pour mener au mieux les opérations de noyage.
Bonne nouvelle, dites-vous, effectivement ce feu fixé, mais c'est arrivé concomitamment avec une mauvaise nouvelle en revanche, qui est que parmi les 4 personnes placées en garde à vue encore au moment où l'on se parle, pour avoir peut-être entraîné le début de ce feu, il y a un pompier volontaire de votre département, un pompier qui a reconnu être à l'origine d'un des départs de feu avec un bidon d'essence et un briquet. Comment vous avez réagi ?
Effectivement, si on peut se satisfaire que les forces de l'ordre aient appréhendé ces 4 auteurs, on regrette, on est particulièrement amer ce matin en apprenant que l'un de ces individus est sapeur-pompier volontaire. L'ensemble de la corporation condamne ce comportement. C'est quelque chose qui est particulièrement triste pour le comportement de cet individu qui est individuel. Tout le monde le condamne. On est satisfait que la justice puisse maintenant faire son travail et on tient à rassurer la population qui nous apporte un soutien quotidien en précisant que c'est un acte, encore une fois, individuel que tout le monde condamne.
Vous le connaissiez ?
Alors, on n'a pas encore son identité particulièrement. Madame la procureure de la République et le préfet ont précisé que c'était quelqu'un de la caserne de Fontainebleau, un jeune de 19 ans. On l'a encore pas rencontré, ce jeune homme qui a de toute façon été placé en garde à vue. Mais voilà, je pense que l'identité n'est pas forcément nécessaire. Ce qui compte,
mais comment on fait pour lutter contre... Parce que c'est malheureusement l'expression d'ailleurs de pompier pyromane, elle est tellement passée dans l'usage courant qu'on se dit que ça veut dire que ça existe. C'est rarissime, heureusement, mais ça existe. Comment on fait pour s'en prémunir ?
Effectivement, malheureusement, ça existe. Nous, on préfère presque parler de pyromane pompier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un esprit pyromane et ensuite il rentre dans la corporation. Et vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement compliqué de lutter contre ces profils lorsqu'on fait un recrutement, surtout des pompiers volontaires, on en a besoin. Donc on essaie de valoriser les profils qui ont de la disponibilité et de la motivation. Donc identifier un profil comme celui-ci lors des phases de recrutement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué.
Merci en tout cas, évidemment, merci d'avoir répondu à mes questions, mais merci plus globalement, franchement, je pense que malgré effectivement cette petite ombre au tableau, on sait tous le mal que vous vous donnez, que vous vous êtes donné aussi ces derniers jours. Merci infiniment, commandant Paul Lorrain, donc chef du service communication des pompiers de Seine-et-Marne. Le feu est donc fixé et vous espérez pouvoir le contenir aussi avec l'arrivée des orages ce soir, 7h41 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Avec Olmo, le 1-2. Attention, le duel. Pedro Pau, la frappe et le but. Le deuxième but de l'Espagne qui prend les devants.
Voilà, la France s'arrête en demi-finale de la Coupe du Monde. Première défaite des Bleus dans le tournoi. 2-0 contre l'Espagne. Immense désillusion ce matin. Bonjour Eric Dimeco.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
On suit avec vous ce mondial sur RMC depuis le début. Benoît Costil est également avec nous dans ce studio. Bonjour Benoît, ancien gardien international tricolore. Messieurs, dans un instant, on va tenter avec vous de comprendre, j'allais dire de se consoler, mais enfin ça sera difficile, mais au moins de comprendre cette très très grande désillusion et puis d'essayer de se projeter sur la suite. Certes, il y a cette petite finale, mais il y a aussi la suite avec le sélectionneur. Est-ce qu'on peut imaginer Zinedine Zidane? Est-ce que ça y est, on peut le dire? En tout cas, je vous attends. Et vous-même qui nous écoutez derrière à votre radio ou devant votre télé, le 32-16 vous est ouvert et le WhatsApp de l'émission sur lequel vous avez déjà nombreux réagi ce matin, Victor.
Et j'ai deux Stéphane, ils portent le même prénom mais ils n'ont pas le même avis. Le premier nous dit: et dire que le Cap-Vert a réussi à faire un match nul contre l'Espagne, comme quoi les Espagnols ne sont pas aussi forts qu'on le dit. Et puis l'autre Stéphane nous dit: ce n'est que du foot. Aïe, c'est pas la phrase à dire ce matin. Chaque match a un vainqueur, on a fait une belle campagne et l'Espagne a été tout simplement meilleure. Bernard nous dit: on a vendu la peau de l'ours avant de le tuer, ça nous servira de leçon pour la suite. Et puis on a Vincent qui tente de résumer un petit peu la tristesse de ce matin. On a été fort avec les faibles et faibles avec les forts. On a loupé une bonne occasion.
À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h44, vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Et c'est la fin de l'ère des champs.
RMC,
radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
On est obligé de le dire et on est obligé de le reconnaître avec beaucoup de tristesse, un peu d'amertume ce matin. Les Bleus éliminés hier soir après cette défaite sans appel, une défaite sèche, 2-0 contre l'Espagne. La France tombe de haut. Bonjour Eric Dimeco, consultant RMC Pauline. Sport, notre fil rouge depuis le début de cette Coupe du Monde, et Benoît Costil dans ce studio, ancien gardien international tricolore. Eric Dimeco, on avait tant espéré et puis hier on les a pratiquement pas reconnus.
Oui, la déception est à la hauteur des espérances que nous a laissé entrevoir cette équipe. Moi, j'ai pas envie de jeter tout ce qui a été fait, tout ce qu'on a dit. J'ai aimé cette équipe, son comportement sur le terrain, en dehors du terrain. Pas évident sur 6 semaines de compétition, quand on va au bout, qu'il n'y ait pas d'accro. Voilà. Après, on a raté notre match. Les Espagnols l'ont réussi. On avait dit aussi que l'Espagne allait nous poser des problèmes que personne d'autre nous avait posé depuis le début de la compétition, mais les commentaires élogieux sur l'équipe de France, c'était pas qu'en France, dans le monde entier du football. J'ai vu des consultants en Angleterre, en fait de partout, en Allemagne, encenser notre équipe. Voilà, on a raté notre match, et puis surtout, on est tombé sur une très très belle équipe espagnole qu'on n'avait pas vue aussi forte depuis le début de la compétition.
Ils ont été très 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 forts, mais on a été très très décevants quand même, Benoît Costil.
C'est un match loupé, comme l'a dit Eric, mais ce qu'il faut noter quand même, c'est la prestation XXL des Espagnols. Ils ont été très très forts, ils ont été dans leur style avec la possession de jeu, la possession du ballon, le déplacement les uns avec les autres. Un match fantastique pour l'Espagne, pendant que nous, on loupe.
Mais on avait l'air comme démunis, on avait l'air comme intimidés, comme perdus.
Pas d'entrée, je trouve que jusqu'au pénalty, on est plutôt bien, on fait jeu égal avec l'adversaire. Et c'est vrai qu'on a été perturbé par le pénalty et que derrière, ce calme, cette sérénité qu'on a eu sur les matchs précédents, on l'a pas retrouvé hier sur cette finale, mais parce qu'aussi l'adversaire nous a privé de ballon et nous a fait déjouer.
Est-ce que ça veut dire, comme un certain nombre d'auditeurs d'ailleurs commencent à le dire depuis ce matin, qu'au fond on était fort parce qu'on avait face à nous des équipes qui étaient plus faibles?
Ça, je sais pas, mais ce qui peut être à noter, c'est que les Espagnols, avant de nous jouer, ont joué le Portugal, ont joué la Belgique, ont eu des grosses confrontations que nous on n'a pas eu. On a quand même joué des équipes moindres, donc peut-être qu'ils arrivent aussi un peu plus prêts.
Est-ce que ça peut avoir joué ça, Eric?
Oui, sûrement, sûrement. Eux sont montés en puissance petit à petit. Des garçons comme Yamal qui est arrivé blessé, a commencé timidement cette compétition pour monter en puissance. On a vu qu'ils ont, même s'il est que rentré hier soir, Nico Williams qu'on n'avait pas vu, qu'on recommence à voir. Et puis surtout, ils ont récupéré un garçon au milieu de terrain qui avait été longtemps blessé, Rodri, qui est un joueur hors norme. Moi, j'ai quelques regrets. Parce que ça se joue sur des faits de jeu. Benoît a raison de dire que sur les 20 premières minutes, on commence bien, on voit le schéma qu'on attendait, c'est-à-dire une équipe espagnole qui a le ballon et nous avec un bloc un petit peu plus bas que d'habitude pour jouer en contre. Et on a eu, on a senti un début de match où on était dedans, sauf que ben oui, un penalty bête pour une équipe qui n'a pas connu ce genre de problème et depuis le début de la compétition, c'est-à-dire d'un coup d'être mené au score, de devoir réagir. Et on a senti que les têtes se baissaient. Saliba qui sort, blessure, Rabiot qu'on sort à la mi-temps parce qu'il a un jaune. Alors ça, c'est nouveau dans le football. Maintenant, quand on prend un carton jaune, on peut plus jouer au football, c'est nouveau. Alors que ça avait été notre meilleur joueur. Donc voilà. Après, à un moment donné, on a quelques regrets, c'est sûr.
Oui, des regrets, une faiblesse, une tristesse aussi. Vincent d'ailleurs est avec nous qui veut partager. Bonjour Vincent. Vincent, vous nous appelez de Roya dans le Puy-de-Dôme. Comment ça va ce matin?
Oh, ça va, écoutez, là, je suis à la plage, là, donc vous voyez, je suis tranquille, je suis pas en voyage, je suis en vacances, donc.
D'accord.
Maintenant, quand même, je fais partie de ceux qui ont le bilan, hein, faible avec les forts, fort avec les faibles, hein, faut être réaliste au bout d'un moment. Hier,
mais non, mais
à la
80e,
on n'a pas. Bah, hier, on a pas de l'équipe.
Mais ça, c'est.
À la 80e,
mais on rate le match.
J'ai entendu toute la saison dégommer dans le Moscato Show dès qu'il y avait des équipes qui n'étaient pas foutues de tirer avant la 80e.
Mais ce que tu dis. Mais ce que tu dis. Qu'on rate notre match, que les Espagnols soient meilleurs que nous, je ne supporte pas cette formule. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Mais on est champion du monde en 2018. On est finaliste en 2022. Demi-finaliste. On a. Oh mais ouais non mais.
Mais Euro 2024, tu te fais taper par l'Espagne de la même façon. Ligue des Nations 2025, tu te fais taper.
Mais oui, parce qu'ils sont plus forts que toi.
Mais tu marques des buts, tu fais quelque chose, tu crées offensivement. Hier, tu es inexistant jusqu'à la 80e. Tu as Unai Simon qui joue libéro. Tu as trois ballons en profondeur. T'as aucun attaquant qui est capable de te la prendre de volée, de tenter de le lober.
Eric,
Oui.
Ils sont fait manger. Hier, Tchouaméni, on n'en parle même pas. Tchouaméni, on l'a vu sur le terrain en première mi-temps. Parce que tu dis Rabiot, moi ce qui me pose problème c'est hier Tchouaméni qui soit sur le terrain à la place de Manu Koné. Tchouaméni, tu voyais qu'il n'avait pas
80. Non mais qu'on explique.
Non, ça va, tranquille, je suis à la plage.
Non mais qu'on explique. Qu'on explique la défaite par plusieurs raisons. La première raison, c'est que l'Espagne est plus forte que nous. Deuxième raison, c'est qu'on s'est peut-être trompé. Alors peut-être pas sur la composition d'équipe. Encore que, en effet, je suis d'accord avec toi. Tchouaméni qui a pas joué pendant deux matchs et connaît le match qu'il fait la dernière fois, tu dois le laisser sur le terrain. Ok. Et ensuite, tu dois réagir quand tes quatre attaquants ne sont pas capables de faire des différences et que tu manges au milieu de terrain. Ben de rentrer au milieu de terrain de plus. Peut-être justement Koné à la place d'un attaquant plus tôt. Ok. Mais quand tu commences, parce que ça c'est facile quand tu as perdu, tout le monde est capable de faire des analyses le lendemain, hein. Tout le monde fait des analyses le lendemain, sauf qu'il fallait les faire
justement,
avant.
Justement, plutôt que les analyses du lendemain, essayons de se projeter. Deux points que je voudrais quand même voir avec vous. Il y a le match samedi soir, on a presque même plus envie de le regarder, il faut quand même les soutenir jusqu'au bout.
Mais il faut le regarder et je pense qu'il a plus d'importance qu'on puisse le penser. Déjà, il y a une médaille de bronze à aller chercher et tu as aussi le dernier match de Didier Deschamps à la tête de cette sélection et un dernier match qui mérite d'être regardé, d'être encouragé, soutenu, pour noter aussi le travail fantastique de Didier Deschamps sur ces 12 années.
Et la suite, on l'écrira aussi évidemment tous ensemble. Ce matin, on y reviendra. D'ailleurs, ce sera à 8h10. Merci à tous les deux, Eric Dimeco, Benoît Costil. Merci aussi à Vincent. 7h51 sur RMC. C'est lundi. Non, c'est pas lundi, c'est quel jour? C'est
mercredi.
C'est mercredi. Mercredi, c'est la voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Hier, un auditeur a appelé RMC pour dire ça. Écoutez.
On n'attend qu'une chose, c'est que ce soit Deschamps le président, quoi. Surtout ça. Même dans les moments difficiles, lui au moins s'est rassemblé. Ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais il a su convaincre.
Ça vous a fait réagir, Louis Sarkozy?
Oui, il y a une vérité dans ce que dit cet auditeur. Didier Deschamps, c'est un peu dans la défaite comme dans la victoire, d'ailleurs, le dernier chef d'État français.
Et vous nous le dites dans un instant, 7h52.
RMC.
Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Mais d'abord le bonus, Victor, le festival des vieilles charrues qui commence demain.
Oui, 280 000 personnes attendues et aussi une pléiade de stars de toute génération, de toute nationalité.
Bla 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 bouquet. Ferme la porte à la bouquet dans le sac.
Elle, bien sûr, vous la connaissez, c'est Aya Nakamura. Il y aura aussi Aurel San, Gims et ça va commencer fort dès demain avec Katy Perry. Alors les organisateurs sont un peu inquiets avec la recrudescence de faux billets générés grâce à l'intelligence artificielle, phénomène d'une ampleur inédite cette année. Quoi qu'il en soit, le Festival des Vieilles Charrues se terminera dimanche soir. Et le bouquet final, ce sera avec Vanessa Paradis. Alors un écran géant était prévu pour que les festivaliers puissent suivre la finale de la Coupe du Monde. Je veux pas jouer les rabat-joie, mais peut-être qu'il sera là l'écran géant. Pas sûr que ce soit le cas pour les supporters.
RMC, Apolline Matin, voix de gauche, voix de droite.
7h54, la voix de droite ce matin comme tous les mercredis, Louis Sarkozy. Louis, ce sont les mots hier d'un de nos auditeurs d'RMC qui vous ont interpellé. C'était Nicolas qui appelait et qui déclarait son amour pour le sélectionneur des Bleus. Il veut Deschamps président. Pour vous, Louis, les candidats à la présidentielle devraient en effet s'inspirer du sélectionneur des Bleus.
La France ne peut être la France sans la grandeur. Comme elle sonne étrangement aujourd'hui, cette phrase de De Gaulle, la grandeur, la gloire, la nation, mais ne se trouve plus du tout au sommet de l'État. Elle se trouve sur un terrain, oui, dans la sueur de 23 hommes en bleu, dans la défaite d'ailleurs comme dans la victoire, et le cri de Deschamps président, moi je pense que c'est un aveu. L'aveu qu'un sélectionneur de football incarne aujourd'hui davantage l'idée de la France que tous nos ministres et nos présidents réunis.
Vous êtes, comme à votre habitude, assez dur avec la classe politique.
Mais oui, parce que je leur en veux. Apolline, je suis un passionné de politique. Depuis gamin, rien ne me fait plus vibrer, rien n'a jamais concentré les plus nobles comme les plus horribles intentions des hommes que la politique. Mais aujourd'hui, mais qui rêve de leur politique ? Les Français ne les respectent plus, les Français ne les croient plus. La politique en France en 2026, c'est la malhonnêteté, c'est le calcul, c'est le court terme. Alors oui, je leur en veux et je suis dur avec eux. Je leur en veux d'avoir rendu méprisable la plus belle des vocations du monde.
Le sport réussit là où la politique échoue ?
Il remplace. Le sport a pris la place qu'occupait autrefois la politique. Nous n'avons plus de grands projets en politique, plus de grandes ambitions, même plus de grands ennemis. Alors qu'est-ce que la France aujourd'hui pour beaucoup de nos concitoyens ? Qu'est-ce que la nation ? C'est une contrainte fiscale et une équipe de sport.
Et Deschamps, alors ?
Deschamps, paradoxalement, c'est peut-être le dernier vrai chef d'État français. 14 ans à la tête d'une sélection, un titre mondial, deux finales mondiales, une finale européenne, un trophée des nations, une constance, une fidélité, un vrai silence, un vrai sang-froid. Il ne se plaint pas en public, il ne trahit pas ses cadres, il exige, il tranche, il assume. Vous en connaissez beaucoup, vous, des ministres, qui tiennent aussi longtemps, qui acceptent l'impopularité, qui savent souder, inspirer, durer. Moi, non.
Les politiques doivent s'inspirer de Deschamps ?
C'est marrant, je pense à un paradoxe. On pourrait d'ailleurs l'appeler le paradoxe français. Nous sommes probablement le peuple le plus critique, le plus râleur, le plus indocile du monde. Nous nous plaignons de tout. Et pourtant, nous adorons les grands hommes qui nous demandent l'impossible. Napoléon, Clémenceau, De Gaulle, aucun ne nous a promis le confort. Tous nous ont fait suer et tous nous ont fait aimer la France. Parce que si les Français râlent contre l'effort, ils méprisent ceux qui ne leur demandent rien. S'ils refusent les sacrifices, ils admirent ceux qui leur en donnent une raison d'en faire. Les Français ne veulent pas qu'on leur promette la facilité, Apolline. Ils veulent qu'on leur donne une raison de se dépasser.
Louis Sarkozy, c'est votre dernière de la saison là sur RMC ce matin. Vous vouliez dire quelque chose à nos auditeurs ?
C'est vrai, Apolline, c'est ma dernière ici. Alors, laissez-moi terminer par notre sujet. Nous n'aurons pas Deschamps à l'Élysée. Et d'ailleurs, c'est très bien, laissons-le au football qui l'a si magnifiquement honoré. Mais dans l'année qui vient, la France devra trouver celui ou celle qui saura incarner l'avenir, qui regardera le pays en face et lui dira « oui, ce sera difficile ».
Faites un discours politique, Louis.
Oui, ça sera impopulaire. Non, je fais un discours aux auditeurs, ce qui est très différent. Mais nous le ferons, ce qui est difficile. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est beau, parce que c'est grand, parce que c'est français. Alors déjà, merci à vous, Apolline. Merci aux équipes de RMC de m'avoir laissé la parole semaine après semaine. Et surtout, merci à vous, nos chers auditeurs. Vous allez avoir de sacrés choix à faire dans les mois à venir. Alors ne succombez pas aux promesses de confort, méfiez-vous des idées reçues, méfiez-vous surtout de ceux qui vous promettent que rien ne devra changer. Souvenez-vous du vieux pays qui vous a bercé et surtout, et surtout gardez votre poudre sec pour les batailles à venir. Je vous embrasse tous.
Louis Sarkozy, c'est ça aussi RMC, justement, la liberté de tout dire. Et d'ailleurs, à votre place demain, ce sera la voix de gauche. Cécile Duflo, bonnes vacances, Louis. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h, passé de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La déception est grande, c'est vrai, ce matin, mais la Coupe du Monde n'est pas finie. Les Bleus ont encore une petite finale à jouer samedi pour se consoler avant de tourner la page. Didier Deschamps va largement y revenir. On va aussi revenir dans ce journal sur la fin, normalement aujourd'hui, de l'interminable parcours du projet de loi sur la fin de vie. Et l'enquête qui avance aussi à Fontainebleau, où un jeune pompier volontaire de 18 ans reconnaît avoir déclenché un des incendies.
C'est dur de se remettre de ses émotions ce matin.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Et alors, si c'est dur pour vous, là, ce matin au réveil, dites-vous que c'est encore plus dur pour les Français qui ont eu la bonne idée de partir en vacances en Espagne cette année et qui ont vécu là-bas, donc la défaite 2-0 hier soir, comme ici en Andalousie. Écoutez avec notre reporter Lucas Laubert.
La déception est si grande que certains touristes comme Patrick hésitent presque à faire leur valise.
Et on s'en va.
C'est terminé les vacances.
C'est terminé pour nous. On retourne en France.
Et si lui essaie de relativiser...
Je pense qu'ils ont surpassé l'équipe de France, tout simplement.
Hein. Ne parlez plus d'Espagne à Owen, un peu mauvais perdant.
En plus, leur pain, il est pas bon et ils ont même pas de viennoiserie.
Une défaite encore plus difficile à vivre, car vécue au milieu des Espagnols...
C'est horrible.
Dans cet hôtel où la demi-finale était diffusée sur écran géant, des dizaines de maillots rouges, seulement quelques bleus... Vous vous êtes pas fait chandrer ?
Moi un peu, mais on m'a fait des petits gestes, mais rien de méchant.
Alors dans cette foule en délire, les vacanciers français ont tenté de passer inaperçus après la Marseillaise en début de match, plus un seul chant.
On pouvait pas avec cette foule en folie. Allez, on est chez eux quand même.
Là, bon, on s'est fait tout petit, ouais.
Et pour la suite des vacances ?
On va se faire tout petit aussi. Et puis voilà, on va terminer les vacances comme ça.
On va éviter s'habiller en bleu, mais du rouge.
Au moins, eux, se consolent-ils, ils ont la plage pour tenter d'oublier la défaite.
Alors tout le monde n'était pas triste, hein, paradoxalement, hier soir, écoutez ces scènes de liesse en Corse. Des chants, des klaxons, des fumigènes aussi allumés par des Corses qui fêtaient la défaite de la France. Ils l'avaient déjà fait il y a 4 ans lors de la défaite au Mondial au Qatar. Mais alors dans l'ensemble, on est nombreux à être comme la petite fille de Lucas Digne qui était filmée en pleurs hier soir dans les bras de sa maman. Et s'il y a autant de déceptions, c'est parce qu'on n'a pas reconnu les Bleus qui nous ont fait rêver pendant un mois, qui se sont fait manger donc par le collectif espagnol 2-0 la défaite hier soir. On remue le couteau dans la plaie avec vous hein, ce matin, Jean-Louis Tour, c'est vous qui étiez au commentaire hier soir sur RMC. Et on espère que les Bleus vont finir en beauté lors de la petite finale pour la dernière de Didier Deschamps.
Oui, on connaît donc la date de la fin de l'ère Didier Deschamps en équipe de France. Ce sera samedi lors du match pour la 3e place à Miami. Point final d'une aventure de 14 ans durant laquelle Deschamps aura ramené une 2e étoile avec le titre en 2018, 20 ans après avoir soulevé la première Coupe du Monde comme capitaine. À son crédit aussi, 2 finales perdues, l'Euro 2016 et le Mondial 2022. Et on ajoute depuis hier 2 demi-finales à l'Euro 2024 et au Mondial 2026. Ça c'est pour le bilan des résultats. Et au niveau du jeu, la France a régalé le public jusqu'au match d'hier, après des années d'ennui. Samedi contre le perdant d'Angleterre-Argentine, qui a lieu ce soir, il faudra essayer de finir sur une note positive, malgré la déception évidente d'un vestiaire anéanti, pour reprendre les mots de Deschamps après l'élimination hier. Les regards vont ensuite se tourner vers Zinedine Zidane. L'officialisation de son arrivée à la tête des Bleus devrait intervenir rapidement après la fin de la Coupe du Monde pour écrire un nouveau chapitre en bleu et vaincre la malédiction espagnole, ça tombe bien. C'est en Espagne que Zidane a connu ses succès d'entraîneur avec 3 Ligues des Champions avec le Real.
Et alors la petite finale, ce sera samedi, mais alors très tard, hein, 23h, vous pouvez déjà noter le rendez-vous, ce sera sur RMC évidemment à Miami. Face donc au perdant du match Angleterre-Argentine, la 2e demi-finale ce soir 21h qui se jouera à Atlanta. Un match qui a une très forte dimension historique entre Anglais et Argentins, comme nous le rappelle Aurélien Tiercin.
Tout a démarré sur les îles Malouines en 1982, un archipel de l'Atlantique Sud dominé par la couronne britannique, mais revendiqué par l'Argentine. La guerre a duré 3 mois, causant près de 1000 morts. Les Argentins n'ont pas oublié.
C'est un match à part à cause des Malouines, de tout ce qui s'est passé. On peut pas se dégonfler. C'est un match qu'on va gagner. On va aller de l'avant et on sait qu'il a une saveur particulière.
Très franchement, on attend ce match depuis plusieurs années et je pense que nous avons les armes pour prendre le dessus.
L'Argentine s'est déjà vengée en quart de finale du Mondial 1986. Maradona marque le but dit du siècle ainsi que la main de Dieu. Injustice pour les Anglais et Jamie qui veut punir son héritier Lionel Messi.
Messi est le plus grand joueur de l'histoire, mais c'est un vieux. Il est temps qu'il aille au lit et mette ses pantoufles.
Les Anglais craignent également l'arbitrage comme Liam.
Si la FIFA arrête de s'assurer que Messi gagne tous ses matchs, alors ça ira. Espérons que l'arbitre soit neutre et qu'on soit bon.
L'arbitre sera monsieur Ismail Elfat, et l'Angleterre tremble, car Messi a toujours gagné quand l'Américain était au sifflet de ses matchs.
Et la soirée a été quelque peu agitée à Paris et en banlieue parisienne, d'après les informations ce matin de BFM TV, puisqu'on dénombre 141 interpellations en marge de cette demi-finale, essentiellement pour des tirs de mortiers d'artifice visant les forces de l'ordre. Cette autre information BFM TV ce matin, ça concerne Jérôme Barella, qui est convoqué dans la matinée devant un juge d'instruction en vue de sa mise en examen pour le meurtre et le viol de la jeune Liana, souvenez-vous, fin mai. Dans la foulée de cette affaire, vous vous souvenez que le ministre Gérald Darmanin avait ordonné le réexamen de 88 000 procédures de violences sexuelles sur mineurs. Les magistrats avaient jusqu'à hier, pour les examiner, sans quoi ils ne partaient pas en vacances. Ce matin, dans le journal Le Parisien, le procureur de Créteil explique que son parquet a dû suspendre une partie de ses activités pour examiner près de 2000 dossiers. Et on verra ce qu'en dit Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, invitée d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. La politique, ce matin, c'est aussi le projet de loi sur la fin de vie. 4 ans qu'on en parle, il a traversé absolument toutes les crises politiques. Et c'est aujourd'hui que les députés doivent, en principe, voter une quatrième et dernière fois ce texte ouvrant la voie à un droit à l'aide à mourir. Mais alors, jusqu'au bout, c'est difficile à suivre, Thomas Becker, puisque le Premier ministre Sébastien Lecornu a surpris tout le monde hier en annonçant la saisie, quoi qu'il arrive, du Conseil constitutionnel.
Oui, le Premier ministre explique que l'examen du texte au Parlement n'a pas répondu aux préoccupations des opposants. Énième rebondissement, puisque cette saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre sonne comme une prise de distance face à la motivation inébranlable d'Emmanuel Macron, dont il est pourtant proche. Le président qui a poussé jusqu'au bout pour maintenir un calendrier serré sur ce projet ouvrant une aide à mourir. Sébastien Lecornu demande au juge de se pencher sur le délai de rétractation, 2 jours que les opposants jugent trop court, le libre arbitre des majeurs sous tutelle et enfin la clause de conscience pour certains établissements qui refusent de la pratiquer. Autant de mesures qui ont fait débat même à l'Assemblée nationale. Sur le fond, même si ces mesures sont censurées, elles ne remettront pas en cause le principe de l'aide à mourir qui devrait être validé par une majorité de députés cet après-midi.
La canicule touche à sa fin et la météo s'améliore aussi à Fontainebleau. 800 pompiers et 3 Canadair restent mobilisés pour venir à bout des incendies qui sont désormais fixés. Et l'enquête, je vous le disais, avance. 4 suspects sont en garde à vue pour les départs de feu. Et parmi eux figure donc un jeune pompier volontaire de 18 ans. Il est passé aux aveux et c'est la sidération chez les pompiers de ce département qui Kinezeglou l'a rencontré pour RMC. Sidération chez les pompiers Kinezeglou donc a rencontré pour RMC.
Des heures passées à récupérer les dons, agencer les lits de camp, tous cherchent leurs mots.
Ça nous laisse sans voix quoi.
Je vous vois lever les yeux. Pourquoi ?
Olivier, bénévole, s'agace.
Disons que j'ai toujours entendu parler des pompiers pyromanes. On se demande ce qui se passe dans leur tête. Ça fait mal au cœur parce que les dégâts sont énormes et vont être très longs à réparer quoi. C'est un truc fou quoi.
Rire jaune, fatigué.
On est débordé, je vous avoue, mais quand on en parle, c'est tous la même réaction, ça fout les boules.
Et pourtant, sur le parking, l'odeur âcre rappelle l'urgence, celle des flammes qui font encore rage à quelques kilomètres. Alors il faut ravitailler, encore faire des allers-retours, charger les packs d'eau à l'arrière du camion.
Quand je l'ai appris, j'ai pris une claque.
Souffle un pompier, mine défaite, les bottes encore tachées de suie.
Il y a de la colère dans vos rangs.
Forcément, qui est légitime. Je suis Guy Croignet, président du SDIS de l'Essonne, les pompiers de 91. Ils risquent leur santé, ils risquent leur vie. Ça les désespère. Ça ne les démotive pas, ça les désespère.
Le volontaire interpellé est d'ores et déjà suspendu. Heureusement, nous glisse un autre secouriste.
Et puis d'un mot, la route qui redevient plate aujourd'hui sur le Tour de France, 11e étape, 161 km normalement pour les sprinteurs entre Vichy et Nevers.
C'était le journal de Quentin Vinet. Il est 8h09 et c'est l'heure de l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et bonjour Emmanuel. Emmanuel, bonjour, est-ce que la défaite de l'équipe de France en demi-finale de la Coupe du Monde est une mauvaise nouvelle pour l'économie française ?
À peine.
À peine. D'abord parce qu'on a déjà eu des effets positifs hein, sur le secteur de la pub, sur les paris sportifs, sur les ventes de télé, sur les ventes de maillots, sur la livraison des repas à domicile. Alors certes, les achats d'impulsion qu'on aurait pu avoir si on avait gagné la finale seront moins nombreux. Enfin, je pense par exemple aux achats de maillots, rappelez-vous, en 2018. Encore, eût-il fallu que les maillots soient disponibles, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Reste évidemment que le principe qui demeure, c'est celui des vases communicants. Et ça, pour une raison simple, c'est que vous ne pouvez pas dépenser l'argent que vous n'avez pas. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que les consommateurs, ils arbitrent en faveur de certaines dépenses, mais ils en sacrifient d'autres. Si, par exemple, vous décidez de changer de télé, vous changez pas de canapé. Si vous regardez le match chez vous en commandant une pizza, vous n'allez ni au cinéma, ni au resto. Et donc, il faut arrêter de fantasmer sur le coup de fouet à la croissance provoqué par la victoire en Coupe du Monde. En 98, certes, ça nous a rendus tous plus heureux. On a passé un bel été, mais grosso modo, il n'y a eu aucun effet sur l'activité économique. La preuve, c'est que la croissance a été plus faible à l'été qu'au printemps et plus faible à l'automne qu'à l'été. Il y a eu juste un petit effet sur, mais qui était avant la Coupe du Monde, c'était sur la rénovation des stades qui était important. Je crois que le seul stade qui a été construit, c'était le Stade de France. Je parle sous le contrôle
de Daniel Riolo.
Et puis rappelez-vous qu'on avait accueilli,
qui hochette de la tête.
On avait accueilli à l'époque des dizaines de milliers de touristes étrangers parce que c'était chez nous. Donc il n'y a qu'un perdant, c'est le secteur du foot lui-même, la fédération, puisque on aurait gagné la Coupe du Monde, on aurait reçu 44 millions d'euros de la FIFA. Là, ce sera 24. Il y aura un moindre engouement pour la fréquentation des stades qu'on constate après chaque victoire en Coupe du Monde. Et puis, oui, évidemment, pour tout le business du sport, la presse sportive, etc. Mais c'est pas grave, on va se consoler avec le Tour de France.
On va se consoler avec le Tour de France, évidemment. Alors, il y a un coin qui ne nous consolera pas, ce sont les chiffres de l'énergie. Comme chaque jour sur RMC, on revient avec vous précisément sur les chiffres et ils remontent à la pompe.
Oui, le gazole, on arrive à 2 euros le litre, c'est 13 centimes de plus que le 4 juillet. Je vous dis le 4 juillet parce que c'était le point bas. C'était le point bas aussi pour le sans-plomb 95. Là, aujourd'hui, on est à 1,94 euros le litre, c'est 6 centimes de plus que 4 juillet. Et pareil, le pétrole vaut 86 dollars le baril contre 71. Et le gaz, maintenant, c'est 54 euros le mégawattheure. On est au plus haut depuis le 30 mars. 30% de hausse quand même sur le gaz depuis fin juin.
Et ne manquez pas, à 8h30, mon invité, ce sera justement la ministre de l'énergie, Maud Bréjon. Il est 8h12 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Évidemment qu'on va en parler ensemble de cette défaite hier soir. On est un peu chaos. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
La voix de l'after, vous serez avec nous donc dans un instant. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216, vous nous laissez vos messages, le WhatsApp de l'émission 06 12 424 424, évidemment pour essayer de comprendre à défaut de se consoler. À 8h30, je le disais, mon invité c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, également ministre de l'énergie. La guerre reprend au Moyen-Orient, l'Iran annonce que le détroit d'Ormuz est bel et bien fermé. Les conséquences sur les prix. Maud Bréjon, donc mon invité, à 8h30. A tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
C'est fini pour les Bleus dans cette Coupe du Monde. Le chemin s'arrête à Dallas. L'Espagne était trop forte. Les Bleus ont pris une petite leçon par les Espagnols. Ils peuvent rentrer tête basse après cette défaite 2-0.
Une petite leçon, une grande leçon. Fin du rêve bleu. Pas de finale pour les Français, éliminés hier en demi de la Coupe du Monde par l'Espagne. Bonjour Daniel Riolo.
Bonjour.
Daniel, on méritait mieux quand même.
Ah, sur le match d'hier, on méritait pas grand-chose. Non,
sur le match d'hier, non, mais surtout
sur
ce qu'on espère.
On méritait mieux alors.
Non, rien.
Non. Je crois qu'on a touché exactement. On a pris une vraie raclée. On a touché totalement la limite. Limite, en revanche, qu'on n'a pas vu venir. Il est peut-être là le problème. Je l'ai souligné dès hier soir. Les coupes du monde provoquent un enthousiasme général, un engouement, et on a vu ces bleus beaucoup trop beaux. On s'est tous beaucoup trop emballés. On a tous beaucoup trop dit que le changement. D'approche, de philosophie, Didier Deschamps était à remarquer. Et c'est vrai, on était toujours avec une équipe de France un peu restrictive, qui jouait toujours avec peu d'attaquants, qui attendait plus qu'il n'agissait. Et dans cette Coupe du Monde, c'est vrai qu'on est arrivé avec 4 attaquants. On les a peut-être trop vite baptisés. Ah, on a 4 joueurs fantastiques, les 4 fantastiques. On avait Olise, Mbappé, Dembélé, plus Barcola ou Doué, puisqu'ils se relayaient l'un l'autre. Et je crois qu'on s'est vu champion du monde beaucoup trop vite. En en regardant trop peu les adversaires qu'on avait eu face à nous.
Des adversaires finalement pas jusqu'à présent vraiment coriaces.
En fait, on le répétait, on disait il y a quand même pas grand-chose quand vous jouez l'Irak, quand vous jouez la Suède qui s'est qualifiée péniblement pour la Coupe du monde, quand vous jouez l'équipe B de Norvège.
Même le Maroc dont on disait bon allez ça y est on va enfin avoir un adversaire bon.
Le Maroc c'est une bonne sélection mais c'est pas le top mondial. Et comme finalement on voyait en parallèle que d'autres gros galéraient un petit peu contre des l'Espagne avait fait 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture de la Coupe du Monde. L'Argentine a galéré en 16e de finale. Donc on disait, bon, pourquoi relativiser les prestations françaises? Après tout, regardez, il y a des gros qui souffrent contre des petits.
Il y a une forme de mea culpa, Daniel.
Oui, il y a eu une mauvaise analyse. Mais souvent les grandes compétitions internationales comme ça.
En fait, on se laisse griser, quoi.
Provoquent un engouement qui donne ce genre de sentiment. Et à l'arrivée, on se tamponne hier contre une équipe d'Espagne qui est bien meilleure que nous, collectivement, techniquement, tactiquement. Et on a vu un Didier Deschamps sans solution.
Sans solution, on se sentait, on les sentait perdus.
Aucune solution. Il a passé une sorte de pacte et de deal avec les joueurs avant la Coupe du Monde qui était, en gros, je fais ça brièvement, Mbappé est allé le voir en lui disant, coach, on va y aller autrement. Parce que 2024, c'est pas possible. 2024, les sondages indiquaient que plus de la moitié des Français voulaient que Deschamps s'en aille. On s'ennuyait devant la télé. C'était absolument horrible le jeu de l'équipe de France. Allons-y maintenant avec quatre attaquants. On va y arriver. On va se sacrifier. On va tous courir. Moi, j'aime bien ce deal. J'ai beaucoup aimé ce deal. Parce que si c'était pour se taper les matchs des Bleus de l'Euro 2024, c'est pas possible. Et même en 2022, la Coupe du Monde, oui, on est allé en finale, mais c'était pénible. Bon, ben là, ce pacte, il était très sympa, c'était très agréable, mais les adversaires étaient faibles et arrivé contre l'Espagne, on s'est pris un mur.
Nicolas est avec nous, qui nous appelle du Rhône, qui est paysagiste. Bonjour Nicolas.
Bonjour à tous vos auditeurs.
Comment vous l'avez vécu, vous?
Moi, je suis de ceux qui critiquaient le problème Mbappé avant la Coupe du Monde et à qui on a dit de se taire parce que Mbappé mettait des buts contre l'Irak. Donc, j'ai pas été spécialement étonné.
Je vois pas en quoi Mbappé est un problème, sans lui, on gagne aucun match déjà donc.
Heureusement qu'il était là, il y avait au moins lui quoi.
Moi ce que je vois hier, c'est qu'on est encore avec ces quatre joueurs électrons libres et qu'au final on n'a pas eu de schéma de jeu. On savait pas quoi faire du ballon face à une équipe qui était solide sur ses bases, qui avait un plan de jeu sérieux. Nous on en avait pas. Le freestyle ça a bien marché contre des équipes plus faibles. Et contre des équipes fortes, on a bien vu qu'hier, il n'y avait pas de solution.
Dans ces cas-là, il faut parler du coach. C'est au coach à mettre une tactique en place. C'est pas s'en prendre aux joueurs. Moi, je m'en prends à aucun joueur, finalement. Mais l'entraîneur est responsable du choix des joueurs sur le terrain et de la façon dont, finalement, il n'a ni trouvé de solution, ni trouvé le bon schéma face à une grosse équipe. Il aurait certainement dû revenir avec un milieu de terrain plus renforcé. Mais j'ai envie de vous dire, très honnêtement, même avec un milieu de terrain plus renforcé, même avec une autre tactique, on est moins fort que l'Espagne, tout simplement. Il faut aussi avoir la lucidité de le dire.
À un moment, faut le reconnaître. Il faut quand même essayer de se projeter. Évidemment, il y a ce dernier match samedi, la petite finale. C'est un match pour du beurre.
C'est un match qui sert à rien du tout.
Ouais, c'est un match
pour du beurre. Qui sert à rien du tout, qu'on a inventé il y a des années pour faire une sorte de médaille de bronze.
Ouais. Parce que c'est un lot de consolation, quoi.
Ouais, mais même, enfin, je sais même pas en quoi ça console.
Parce que vous gagnez
cette petite finale. De toute façon, c'est une équipe B qui va jouer très probablement. Mais qu'est-ce que vous en faites de ce lot de consolation?
Alors, on va se projeter plus loin. Zidane, beaucoup d'espoir évidemment.
C'est après combien 12 de Deschamps, 12 ans de Deschamps.
14 je crois.
14. Bon bah oui, c'est une nouvelle aventure. Est-ce qu'il fera une équipe différente? Déjà il a ses joueurs, il va pas tellement les changer, il y aura peut-être une ou deux nouveautés. Mais effectivement, voyons voir ce que tu peux nous proposer, quel genre de jeu tu peux nous proposer, parce que c'est de ça dont on manque cruellement.
Si vous l'aviez là devant vous, vous lui diriez quoi?
De penser surtout à parler au directeur technique national et à tous ces jeunes qu'on forme et de trouver des milieux de terrain plus techniques.
Donc de changer les joueurs quand même?
Non, les joueurs, c'est juste qu'il va falloir qu'on forme et qu'on ait une approche différente dans la formation de nos joueurs. Les attaquants sont formidables, au milieu de terrain on a beaucoup de mal.
C'est fini là la Coupe du Monde, non?
Pour vous peut-être, moi je suis
Angleterre-Argentine. Mais je veux dire mentalement.
Oui, pour les Bleus, oui bien sûr, mais pour ceux qui aiment le foot, Angleterre-Argentine ce soir, je suis très excité.
Ça va être un très 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 bon match.
La finale sera fantastique parce que l'Espagne contre l'un des deux qui va se qualifier, c'est une belle finale, assurément. Mais oui, on a pris une grande claque hier. On a pris une grande claque. Mais je répète, ce manque de lucidité et le fait de ne pas avoir assez relativisé ce qu'on voyait rend la déception plus grande ce matin.
Rend la déception d'autant plus douloureuse. Deuxième demi-finale ce soir, effectivement, 21h. Angleterre-Argentine à suivre en direct et en intégralité sur RMC. RMC en direct des États-Unis de 20h jusqu'à 5h du matin. Merci beaucoup, Daniel. Daniel Riolo, merci. Évidemment, la voix de l'after. Il est 8h23 sur RMC et sur RMC Story. Dans un instant, je file sur BFM TV en plus d'RMC et je recevrai Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Énergie. Question notamment sur ces aides qui, visiblement, n'ont pas servi à grand chose, les aides au carburant. Est-ce qu'ils vont trouver plus efficace pour la suite? Parce que les prix, ils continuent, ils reprennent leur remontée. Le diesel qui est au-dessus des 2 euros. 8h23, tout de suite. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC. Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clément Gouitz.
La désillusion est immense ce matin. Les Bleus se sont heurtés à plus fort qu'eux. L'Espagne, défaite 2-0 hier soir en demi-finale du Mondial. Pas de troisième finale consécutive pour les hommes de Didier Deschamps. Les Espagnols vont connaître ce soir leur prochain adversaire, le vainqueur de la rencontre Argentine-Angleterre. C'est à vivre à 21h sur RMC. Soulagement, ce matin, l'incendie de Fontainebleau est fixé. 4 personnes, dont un pompier volontaire, ont été interpellées actuellement en garde à vue. Le feu, lui, a parcouru depuis dimanche plus de 2000 hectares. Les pompiers sont toujours mobilisés ce matin. Jérôme Barella, principal suspect dans le meurtre de Liana début juin dans le Gers, va être entendu aujourd'hui par un juge d'instruction. C'est ce que nous apprend ce matin BFM TV, convoqué en vue de sa mise en examen pour meurtre. Place aujourd'hui à la 11e étape entre Vichy et Nevers, longue de 161 km. L'intégral tour, c'est sur AMC dès 14h.
C'était le rappel des titres de Clément Gouitz. Dans un instant, mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement et ministre de l'Énergie, Maud Bréjon. Et je reviendrai notamment sur ce détroit d'Ormuz, à nouveau fermé, les prix du baril qui remontent. Et on apprend justement que les aides au carburant, elles ont été mal ciblées, mal ficelées, peu utilisées par les Français. Maud Bréjon, dans un instant, à mon micro.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du gouvernement, vous êtes ministre délégué à l'énergie. De très nombreuses questions à vous poser sur l'énergie parce que les prix remontent, parce que le détroit d'Ormuz est à nouveau fermé et parce que, semble-t-il, les aides carburants qui avaient été promises, parfois versées, ont manqué leur cible. C'est ce que dit d'ailleurs un rapport parlementaire. Mais d'abord, la désillusion, la tristesse, la fin des Bleus en Coupe du Monde hier... Comment vous réagissez? Comment le gouvernement a vécu ça?
Écoutez, c'est une déception, évidemment. On avait tous placé beaucoup d'espoir dans cette équipe. Moi, ce que je voudrais dire ce matin, c'est qu'elle nous a fait rêver pendant des semaines. Qu'on soit jeune ou moins jeune, fan de foot ou moins fan de foot, ça a été de vrais moments de joie, de vrais moments d'espoir, de vrais moments d'union nationale. Et si vous me le permettez, je voudrais avoir un mot pour Didier Deschamps. Voilà, a priori, c'était son dernier match, son avant-dernier match.
Il y en a encore un samedi soir.
Exactement.
Enfin, effectivement, c'était un peu un match en bois.
Et voilà, c'est quelqu'un qui, depuis des années, à mener cette équipe de France au plus haut niveau, qui est rentrée, je pense, dans le salon des Français, à qui on est tous beaucoup attachés. Et donc, je vous le dis parce que j'ai entendu quelques critiques ce matin sur voilà l'organisation de l'équipe. Moi, je suis pas spécialiste de foot. Ce que je peux vous dire, c'est
mais
que
vous trouvez ça déplacé ?
Il a en tout cas, je crois qu'après toutes ces années, il a profondément marqué le football français. C'est quelqu'un qui l'a fait.
On projette Zidane.
En tout cas, il l'a fait avec humilité, avec générosité. Donc, bienvenue à Zidane, bien sûr, qui est aussi une grande figure du football français. Mais voilà, je pense que c'est important dans ce moment d'avoir un mot pour
ça. Ça nous a fait du bien. Ça nous a fait du bien, d'autant plus que effectivement, quand on commence à regarder dans le détail la situation, notamment économique du pays, c'est pas franchement flambant. Je voudrais vous revenir ce matin avec vous sur les prix du carburant qui repartent à la hausse ce matin, et c'est assez symbolique. C'est à nouveau 2 euros le litre pour le diesel, le prix du baril qui remonte aussi à la hausse cette nuit. Vous êtes la ministre de l'énergie, on fait quoi?
Bon, d'abord, il y a une grande incertitude sur ce qui se passe au Moyen-Orient, et donc il convient d'être extrêmement prudent dans la manière dont on aborde ce sujet. Il y a une reprise des tensions depuis quelques jours maintenant. Je ne sais pas vous dire dans quelle mesure ces tensions vont continuer à perdurer. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que personne sur place ou à l'extérieur n'a intérêt
à l'embrasement. L'intérêt des uns et des autres, des différentes parties prenantes, c'est que le calme puisse revenir dans la région et que ce détroit d'Hormuz puisse réouvrir de manière pacifique et coordonnée. C'est ce à quoi travaille le président de la République depuis le départ. Maintenant, on voit bien sûr les impacts que cela pourrait avoir. Je parle évidemment...
Enfin là, quand on regarde les chiffres rien que ce matin dans les pompes à essence de France, ça a déjà un impact.
Oui, mais dans les semaines à venir, encore une fois, je suis très prudente. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons toujours été aux côtés des Français, et notamment des Français les plus modestes. Nous avons toujours été aux côtés des secteurs d'activité les plus en difficulté. Rappelez-vous ce que nous avons fait pour les agriculteurs, pour les pêcheurs, pour les transporteurs, au moment où le prix du carburant était le plus haut. Et donc, on maintiendra évidemment cette ligne. Mais aujourd'hui, il est un peu tôt, pour se projeter dans des semaines d'embrasement d'inflation des prix du carburant. Je comprends,
mais vous maintenez cette
bien
ligne,
sûr, je comprends,
cette ligne
je comprends la difficulté, et je comprends l'inquiétude que peuvent ressentir aujourd'hui certains Français qui partent en vacances. On est dans une période où on consomme beaucoup de carburant, là encore, nous le savons. Encore une fois,
mais qu'est-ce qui va se passer ?
Quelle a été notre ligne ? On a choisi de faire des aides ciblées qui permettaient de protéger les Français les plus modestes, de protéger les secteurs d'activité les plus en difficulté, en étant respectueux des finances publiques, parce que c'est
une réalité. Vous avez lu, j'imagine, Maude Bréjon, les conclusions de ce rapport, cette mission flash sur la taxation des carburants et sur les aides. On a arroser du sable, voilà ce que dit Philippe Brun, le rapporteur de cette mission.
Oui, je trouve que c'est extrêmement méprisant pour tous les Français, d'abord les plus d'un million de Français qui ont touché l'aide gros rouleur de 100 euros, qui en avaient réellement besoin.
Vraiment
plus d'un million cent, voilà, je vous le donnerai pas à l'unité près, mais plus d'un million cent à l'avoir demandé et à l'avoir d'ores et déjà touché. Je pense que pour les secteurs d'activité...
Moi, mon chiffre, c'était 1 million qui l'ont demandé, mais seulement un peu plus de 800 000 qui l'ont touché.
1 million 100
ce matin qui l'ont 1 million 100 touché.
1 million 100 qui l'ont touché. Voilà. Dire qu'on a arrosé du sable lorsqu'on a aidé, encore une fois, des agriculteurs, des pêcheurs, des transporteurs, le secteur du BTP qui était demandeur, qui en avait besoin, quand on a mis en place des réductions de 15 centimes par litre pour un grand nombre de secteurs, de ces secteurs que je viens de citer. Voilà,
je trouve que
ce que dit ce rapport est à côté de la réalité. Maintenant, est-ce qu'on aurait pu faire davantage, puisque c'est ce que pointe Philippe Brun. Philippe Brun dit, il aurait fallu baisser les accises, baisser les taxes, il aurait fallu aider.
Il prend modèle de l'Espagne et de la Grèce en disant que l'un comme l'autre ont davantage aidé et surtout ont davantage touché ceux qu'ils voulaient vraiment aider.
Oui, combien l'Espagne a déboursé pour ses aides?
À peu près 700...
7 milliards.
Voilà.
7 milliards. Nous avons déboursé 1,2 milliard d'euros.
Oui, mais c'est parce que l'Espagne avait fait plus d'efforts avant.
Parce que l'Espagne avait fait plus d'efforts avant. Mais merci, je suis contente de vous l'entendre dire. Et j'aimerais le dire ce matin à Philippe Brun.
Mais pardon, est au pouvoir depuis 10 ans.
Je peux terminer. Si l'Espagne, aujourd'hui, a un déficit de 2,2% de mémoire, est en capacité de faire ces aides-là lorsqu'elle traverse des crises, c'est parce qu'elle a su faire des réformes. Et permettez-moi de le dire, elle a notamment réussi à faire une réforme des retraites en 2027. L'âge légal de départ à la retraite en Espagne sera 67 ans. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire la même chose en France, mais je voudrais quand même mettre Philippe Brun en face de ses contradictions entre ce qu'il demande à la France et au gouvernement français de faire, en prenant comme exemple un pays tiers, en l'occurrence l'Espagne, qui a fait des efforts qu'en France, une partie de la gauche refuse de faire. Donc, tout ça pour dire une chose, si on veut aider les Français en temps de crise, et on l'a fait, il faut avoir une démarche respectueuse des finances publiques et retrouver une trajectoire saine des finances publiques, ce qui nous amènera au budget de l'automne.
Maude Bréjon, encore un point sur ces aides, parce que vous dites, tous ceux qui l'ont demandé l'ont touché. J'ai eu ce matin un auditeur, Alexis, qui est cheminot dans le Nord. Il fait 60 km, un peu plus de 60 km par jour en voiture. Il a demandé l'aide. Il est tout à fait convenu, et il a eu d'ailleurs plusieurs personnes, parce qu'il a fini par appeler, il y avait, semble-t-il, un bug sur l'application, qui lui disent qu'en effet, il est tout à fait éligible à cette aide, mais qu'il y a un problème sur les hybrides non rechargeables qui sont éligibles, mais qui rentrent pas dans la machine, dans le CERFA, et on lui dit, vous la toucherez probablement
fin août, alors qu'il a fait cette demande il y a déjà 2 mois. Ça vous paraît normal?
Alors, je l'ai écouté ce matin, vous l'avez entendu sur RMC. J'ignore ce cas particulier. Et ce que je peux dire, c'est qu'évidemment, notre responsabilité, c'est de mettre en place des dispositifs les plus simples possibles, de telle sorte que le recours puisse être le plus simple possible.
Philippe Brun, il me dit que 2/3 de ceux qui sont éligibles à cette aide ne l'ont même pas demandé.
Alors, c'est moins de 2/3, en réalité 40% environ. Un peu moins de 40% un peu moins de 40% de ceux qui étaient éligibles l'ont demandé et l'ont
perçu. Donc ça veut dire que 60%.
Donc le chiffre.
Attendez. Ça veut dire que 60% oui. de ceux qui sont éligibles à cette aide ne l'ont même pas demandé.
Ça veut aussi dire que le chiffre avancé par Philippe Brun n'est pas correct.
Oui, enfin, ça veut quand même dire que 60%. Ensuite, alors, revenons. Oublions Philippe Brun. On est quand même à 60% de Français qui ont droit à cette aide qui ne l'ont pas faite. Ça veut dire que vous avez raté votre cible.
Pardonnez-moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, Apolline de Malherbe. On a ouvert une aide, encore une fois, pour 3 millions de Français.
Et il y en a qu'un million du coup qui l'a
demandé. 1,1 million. On a assumé qu'il faille une démarche volontaire pour toucher cette aide.
Compliqué semble-t-il, hein, si j'en crois.
Et je vous invite à aller sur le site et à faire une simulation de demande comme si vous étiez ayant droit. Vous verrez que c'est en fait assez simple, qu'un certain nombre de vérifications sont faites automatiquement par l'administration fiscale. On a volontairement mis en place le portail le plus simple
Comment
possible.
Vous expliquez
Moi, j'estime, Apolline de Malherbe, que lorsque l'État met en place une aide, un chèque, il est normal qu'il y ait une démarche volontaire de la part des personnes qui veulent
Comment
en bénéficier.
Comment vous expliquez que 2 millions ne l'aient pas demandé?
Bien, on regardera, encore une fois, avec du recul, ce qui s'est passé. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus d'un million de personnes, c'est beaucoup plus d'un million de personnes qui ont eu recours à cette aide de 100 euros, qu'il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui ont eu recours aux aides. Encore une fois, je ne vais pas vous citer de nouveau les secteurs, agriculteurs, transporteurs, pêcheurs, pour qui c'était utile. Et un dernier point qu'on oublie, c'est le chèque énergie qui a été versé en avril. Entre 150 et 270 euros qui sont versés chaque année aux populations les plus précaires, plus de 4 millions de personnes. Plus de 4 millions de personnes l'ont touché de manière automatique. Donc, est-ce qu'on aurait pu faire davantage?
Vous ne changerez pas.
Toujours
vous
dire
ne changerez
qu'on
pas
pourrait faire davantage, mais on a été aux côtés des Français.
On a bien compris,
Maud
Bréjon, que donc les prix non seulement remontent, mais ne sont pas prêts, semble-t-il, de redescendre. Est-ce que les aides vont être poursuivies? Est-ce qu'elles vont être adaptées? Est-ce qu'elles vont être changées? Qu'est-ce qu'on fait?
Bon, d'abord, on va s'assurer que l'été se déroule correctement
Total,
sur les plans.
Total, c'est engagé à continuer
sur
à
le
plafonner.
Plan des approvisionnements. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est qu'il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement aux stations-service pour les Français qui nous écoutent. On va évidemment suivre l'évolution des prix avec la plus grande attention. On avait annoncé que ces aides valaient pour 3 mois, et donc on va arriver fin juillet au bout de cette échéance-là. On fera évidemment un point, on pourra faire évidemment le bilan, mais là encore, fonction de la manière dont les prix auront évolué. Ça fait 2-3 jours que les tensions reviennent au Moyen-Orient, en tout cas avec ce niveau d'intensité, il convient encore une fois, je le redis, d'être extrêmement prudent.
Maud Bréjon, les incendies, le grand feu de Fontainebleau semble être fixé, pas encore éteint, mais fixé à ce stade. On a combien de canadairs?
On a 12 canadairs.
Vous vous souvenez sans doute que Emmanuel Macron avait promis, et les mots datent du 28 octobre 2022, nous allons faire en sorte que leur nombre soit porté à 16 d'ici la fin du quinquennat.
Alors, on a 12 canadairs et on a 8 Dash. En réalité, il convient de parler de l'ensemble des avions dits bombardiers d'eau.
Donc Emmanuel Macron s'est trompé?
Dit bombardiers, non. C'est pas ce que je dis. J'explique à vos auditeurs. Vous savez ce qu'on a fait en 2017 quand on est arrivé? Vous savez ce qu'a fait Gérard Collomb, paix à son âme, ministre de l'Intérieur, lorsqu'il est arrivé place Beauvau? Il a immédiatement lancé une commande de 6 Dash, qui sont des avions bombardiers d'eau, que nous avons reçus. Nous avons ensuite commandé 2 Canadair, puis 2 nouveaux Canadair supplémentaires, et les moyens alloué à la lutte contre les incendies, au risque incendie, ont augmenté de 40% entre la période 2019-2022 et 2022-2025. Donc, là encore, nous nous préparons, nous renforçons nos moyens, nous renforçons aussi nos moyens de par la coopération que nous mettons en place avec nos voisins européens, qui fonctionne très bien.
Mais on est bien d'accord, Maud Bréjon, que lorsque Emmanuel Macron a dit nous allons faire en sorte que leur nombre, le nombre de Canadair soit porté à 16 d'ici la fin du quinquennat, ça ne sera pas le cas.
On a porté les Canadair d'abord à 12, on en a commandé deux supplémentaires. Il faut laisser le temps à l'outil de production de nous livrer ces Canadair. Il y a non des tensions, moi pardonnez-moi. Je reprends, c'est important.
Je comprends bien, mais j'imagine qu'il avait ces informations. Pourquoi il nous a dit qu'il y aurait 16 Canadair avant la fin du quinquennat, s'il savait tout ça?
Alors, d'abord, la réalité industrielle, les tensions qu'il peut y avoir sur les lignes de production lorsque une entreprise fait face à de nombreuses commandes ne sont pas toujours prévisibles, non. Et ensuite, encore une fois, le budget est là, les commandes ont été passés. Nous avons, je le redis, ça n'a jamais été.
Gabriel Attal a coupé 50 millions de budget de la sécurité civile. C'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui le dit, mais j'ai vérifié les chiffres. Il a parfaitement raison, Jean-Luc Mélenchon.
Ce que Jean-Luc Mélenchon dit, c'est que deux Canadair avaient été commandés et que il y en avait deux autres en option. Plus précisément, ça, il ne le précise pas, mais c'était bien deux autres en option et que du fait des difficultés d'approvisionnement, ils n'ont pas été immédiatement confirmés. Encore une fois, j'entends l'inquiétude des Français. Moi, ce que je peux vous dire...
Jean-Luc Mélenchon dit précisément, en coupant dans les dépenses publiques, Gabriel Attal a fait annuler une commande de deux Canadair. Résultat, nous n'avons pas plus d'avions qu'en 1984. Nous sommes capables de faire l'avion de guerre le plus performant, le Rafale, mais nous serions incapables de déployer les A400M, des avions transformés en bombardiers d'eau pour lutter contre les incendies.
Avoir des grandes leçons de Jean-Luc Mélenchon sur la lutte contre le risque incendie, pardonnez-moi, mais ça a de quoi nous faire rire jaune. Lorsqu'on a voté des lois à l'Assemblée nationale, j'étais parlementaire... Pour lutter contre ce risque incendie, la France Insoumise a voté contre. Lorsqu'on vote des moyens pour renforcer les budgets de l'intérieur, de la sécurité civile, de l'armée, la France Insoumise vote contre. Donc se feindre d'un tweet un dimanche soir ou un lundi soir pour critiquer tout ce qui a été fait ou tout ce qui n'aurait pas été fait ces dernières années, c'est d'une simplicité, pardonnez-moi, qui est complètement en décalage avec la réalité. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est qu'on a augmenté les moyens aériens, qu'on a augmenté les moyens terrestres, le nombre de véhicules, qu'on a formé davantage de sapeurs-pompiers, davantage de militaires. On a aujourd'hui 250 000 sapeurs-pompiers formés en France, dont 200 000 volontaires. Et je les en remercie du fond du cœur parce qu'ils font un travail absolument formidable.
Bien sûr que tout le monde les remercie, mais à un moment, on peut aussi être lucide. La flotte de Canadair français, elle a 30 ans en moyenne.
Mais encore une fois, je ne vous dis pas, Apolline de Malherbe, qu'il ne faut pas investir. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas la renouveler. Je vous dis que ce renouvellement a été entamé.
Moi, je prends les mots d'Emmanuel Macron. Nous allons faire en sorte que le nombre de Canadair soit porté à 16 à 20
dès,
et je comprends.
Dès 2017. Mais cette trajectoire est maintenue. Il y a des difficultés de production, il y a des difficultés d'approvisionnement, mais cette trajectoire est maintenue. Canadair ne sont pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre le risque incendie. Les moyens terrestres, les moyens humains sont aussi absolument essentiels.
J'entends votre réponse canicule, les alertes rouges sont levées, mais il fait encore extrêmement chaud. Deux questions. D'abord, est-ce que vous avez un chiffre plus précis sur le nombre de morts à déplorer dû à la canicule pour la première vague et celle qui vient de se terminer?
Non, je n'ai pas de bilan à donner ce matin. Et bien sûr, j'ai une pensée, comme vous, pour toutes les familles qui auraient été touchées.
Il y avait cette annonce, 30 000 climatiseurs commandés en urgence pour les hôpitaux. Oui. Combien ont été
livrés? Nous maintenons cet objectif. C'est 16 500 seront livrés d'ici à la fin de la semaine, auront été livrés d'ici à la fin de la semaine.
16 000 ?
16 500, pour être précise. Et 30 000 seront bel et bien livrés d'ici à la fin du mois de juillet. Nous suivons donc l'objectif qui est le nôtre.
6 000 la semaine dernière, ça veut dire qu'il y en a 10 000 de plus cette semaine.
6 000 la semaine dernière, c'était 8 000 en fin de week-end, début de semaine, dimanche ou lundi. L'objectif de 16 500 sera tenu d'ici à la fin de la semaine, 30 000 fin juillet. 70%, je le précise, ont été livrés dans des départements en vigilance rouge. Voilà, chacun comprend bien pourquoi.
La fin de vie. Le vote très attendu aujourd'hui. Et Sébastien Lecornu qui, dans ce contexte, a annoncé qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, il doute?
Non, ça veut dire que c'est des débats qui sont d'abord extrêmement complexes, extrêmement personnels, extrêmement intimes, qui soulèvent un certain nombre de questions. Et donc, comme Gérard Larcher a annoncé le faire, le Premier ministre a annoncé saisir le Conseil constitutionnel, là encore pour lever d'éventuels doutes sur certaines dispositions de cette loi, ce sera au Conseil constitutionnel, de regarder l'intégralité de cette loi. Là encore, c'est une action qui est en fait assez régulière lorsque des lois très importantes...
Il n'était pas obligé de le faire.
il le fait parce qu'il estime que c'est important.
Je crois que cette loi est absolument majeure au sens où elle touche tout le monde. Moi, j'y suis opposée. Je vous le dis tel que je le pense. J'aurais voté contre cette loi. C'est pas le sujet. Quoi qu'on en pense, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est une loi importante. Et donc, aller au bout de la démarche, au fond, ne serait-ce que pour que les choses se passent au mieux derrière, il me semble que c'est important. Voilà. Et donc, le Premier ministre, en concertation avec le président de la République, contrairement à ce que j'ai pu entendre, a pris cette décision. Je le dis parce que voilà,
c'est en concertation avec Emmanuel Macron. Ça n'est pas en contradiction avec Emmanuel Macron.
De vos confrères ont laissé entendre qu'il aurait pris cette décision
en force, en quelque sorte.
Seul, je peux vous dire ce matin que le président de la République et le Premier ministre ont pris cette décision conjointement il y a une semaine en amont du Conseil des ministres de mercredi.
Merci de vos réponses, Maude Bréjon. Vous êtes donc la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'énergie. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, le choix de la rédaction et les toutes dernières infos Coupe du Monde.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sûr RMC, il est 8h49. Le mondial d'Antoine, c'est avec vous Antoine Salva. Bonjour Antoine.
Bonjour, Apolline.
Dans un instant, vous nous le direz, la France est inconsolable après la défaite des Bleus. Mais avant cela, c'est l'heure du choix de la rédaction avec Martin Lange. Bonjour Martin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Martin, vous êtes le correspondant d'RMC pour l'Ouest et vous nous emmenez ce matin dans le monde de la pêche, frappé de plein fouet par la crise du carburant, les pêcheurs qui sont obligés d'arrêter la pêche parfois et de se consacrer à d'autres activités pour tenter de sauver leur entreprise. Ça se passe dans le Finistère.
Oui, c'est un petit tremblement de terre ici à Pauline. Les 6 chalutiers hauturiers du port de Loctudy, ce sont les plus gros bateaux qui partent au large pendant plusieurs jours, arrêtent leur activité de pêche pendant 3 mois. À la place, ils vont aller surveiller le chantier d'installation d'un câble électrique dans le golfe de Gascogne, une activité bien plus rémunératrice. Ludovic Lelay est l'armateur de 5 de ces bateaux.
Le constat, il était assez simple. On a quand même près de 53% d'apport en moins sur 5 ans. Nous, aujourd'hui, on gagnait plus d'argent sur les derniers mois. Les hommes qui partent en mer sur des durées de 15 jours, ils font un métier qui est extrêmement dur. Mais aujourd'hui, pratiquer un tel métier pour ne pas en retirer de bénéfices, ça devient très, très délicat. On n'a pas pris cette décision de gaieté de cœur. Elle était devenue plus que nécessaire pour nous. On n'avait plus le choix. Il fallait trouver une solution. Alors celle-là, c'en est une.
Pas de pêche pendant 3 mois, ça veut dire donc évidemment aussi pas de poisson, hein.
Oui, tout à fait, Apolline. D'autant que ces chalutiers qui partent en haute mer sont ceux qui ramènent le plus de poissons. La moitié des 2500 tonnes passées par la criée de Loctudy l'an dernier. Alors, avec cette pause de 3 mois, Yves Guiriec, le gestionnaire de la criée, a fait ses calculs.
Ça représente à peu près 350 tonnes. Une absence massive comme ça de produits, bon, impose forcément que nous ayons des mesures immédiates. Nous avons suspendu l'ensemble des contrats saisonniers. On se laisse 3 semaines pour observer combien y aura-t-il d'acheteurs tous les jours, quelle est l'incidence sur les prix moyens. Auquel cas, on va limiter peut-être les ventes, non pas à 5 ventes par semaine, mais à 3 ventes par semaine. C'est un signe qui interroge la filière, évidemment.
Qui interroge la filière et puis qui inquiète toute une ville.
Donc tu dis, c'est 300 emplois directs ou indirects. Des emplois déjà mis à mal il y a 3 ans. Rappelez-vous le Brexit, un plan de sortie de pêche. Ici, c'est une vingtaine de navires qui sont partis à la casse. Mais le port, ce n'est pas que la pêche et l'emploi. Écoutez le maire, Cyril Osnard.
Beaucoup d'enfants viennent des communes extérieures et sont scolarisés dans nos écoles parce que les parents travaillent sur la zone portuaire. Le tourisme aussi, c'est quelque chose d'important pour notre commune, mais c'est vrai que c'est en lien avec le port. Pendant 3 mois, il va falloir faire le dos rond. C'est sûr que c'est difficile, c'est sûr qu'il y a de l'argent en jeu, mais il faut faire le dos rond parce qu'on sait que les bateaux vont revenir après. On tient à notre port et on se battra pour notre port.
Un port qui s'est diversifié ces dernières années en misant notamment sur la culture des algues ou encore des moules.
Et ce qui se passe dans le Finistère, Martin, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres d'un modèle en bout de course, hein.
Oui, entre des volumes de poissons qui baissent, vous l'avez entendu, des charges, notamment le carburant qui explose, et une concurrence souvent moins vertueuse, ce sont 12 000 emplois liés à la pêche qui sont en jeu, rien que dans le Finistère. Le président du département, Maël Decalan, tire donc la sonnette d'alarme.
On parle de beaucoup d'emplois et de beaux emplois industriels, des emplois qui payent bien, des emplois qui sont basés dans des petites villes côtières dans lesquelles on aura beaucoup de mal à remettre de l'activité si on laisse partir cette filière. C'est pour ça que nous, on se bat bec et ongles pour les garder, d'autant plus que les Français n'ont jamais mangé autant de poissons qu'aujourd'hui. Malheureusement, c'est du poisson d'importation. Et nous, ce qu'on veut dire à la fois aux consommateurs et au pouvoir public, c'est qu'il faut qu'on préserve cette industrie. On a laissé partir l'acier, on a laissé partir le textile. Il ne faut pas qu'on laisse partir notre pêche.
Un appel à manger du poisson français relayé par tous mes interlocuteurs. Aujourd'hui, 3/4 des produits de la mer consommés en France sont importés.
Merci Martin. Martin Lange, donc correspondant à RMC dans l'ouest de la France. Et l'équipe de France n'ira pas en finale.
RMC, le mondial d'Antoine.
Antoine Salva, journaliste RMC Sport, vous êtes toujours avec nous. Des illusions immenses après l'élimination de l'équipe de France hier soir.
Oui, Apolline, l'histoire retiendra que notre rêve d'une troisième finale consécutive s'est fracassé hier dans le Texas face à l'Espagne, championne d'Europe en titre. Le carton de Rabiot, puis la faute de Digne offrant un pénalty à Oyarzabal, ont rapidement donné le ton de cette demi-finale à sens unique qui a vu les Français être menés au score pour la première fois de la compétition. Battus 2-0, les Bleus n'ont jamais réussi à revenir dans le match. Un sentiment d'impuissance et des olés qui sont rapidement descendus des tribunes. Hier, notre attaque, pourtant la meilleure de la compétition, est mise sur un piédestal ces dernières semaines, n'a pas existé. Selon Opta, le total d'expected goals, le nombre de buts attendus, à 0,3, est le pire de la France depuis 60 ans en Coupe du Monde. La claque est difficile à encaisser. Nous avons peut-être été bercés d'illusions par un parcours relativement facile jusqu'au dernier carré. Au final, c'est une élimination logique pour Didier Deschamps.
C'est le très haut niveau. On a une équipe d'Espagne qui est très forte. On n'a pas trouvé les solutions. Sur un tel match, face à une telle équipe, il faut être au maximum, mais l'équipe de France ne l'était pas ce soir.
Le sélectionneur espagnol résumait lui cela avec une phrase simple. L'une des meilleures sélections a été battue par la meilleure équipe du monde.
Mais le tournoi n'est pas totalement terminé pour les Bleus. Hein.
Oui, le dernier match de Didier Deschamps, samedi à 23h. Les Bleus joueront donc la finale pour la troisième place à Miami. Autant dire qu'hier, c'était très difficile de s'y projeter pour Ryan Cherki.
Pour l'instant, on n'a qu'une seule envie, c'est oublier ce qui vient de se passer. Parce que c'est dur, c'est très très dur.
Morale dans les chaussettes pour les joueurs, aussi pour les supporters.
Quand y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là.
Et oui, comme le dit Orelsan, la fête est finie. Et les fans croisés hier dans le 11e arrondissement de la capitale étaient eux aussi très déçus.
Même pas d'émotion, ils ont tué le match. Tactiquement, c'était terrible.
Après, on est quand même fiers de la Coupe. C'était une dinguerie. Ils nous ont fait vibrer contre le Paraguay, le Maroc. C'était fou. On retient quand même.
Et on espère en 2030, on va la chercher avec Zidane.
Peut-être qu'on ne sait pas répondre aux grandes confrontations. On ne sait pas répondre aux grands événements et aux grosses interviews.
Bon, Apolline, le nom de Zidane a été prononcé. Avant de penser à la suite, laissons d'abord Deschamps finir son incroyable mandat de 14 ans avec brio.
Antoine, ce soir, les Espagnols, ils vont pouvoir regarder tranquillement l'autre demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine.
Faute d'un remake de 2022, on pourrait avoir celui de la finale du dernier Euro remporté par la Roja face à l'Angleterre. À Atlanta, comme dans tous les stades du monde, les supporters anglais sont prêts à chanter à tue-tête sur un Wonderwall d'Oasis, par exemple. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Et l'attente est très importante de l'autre côté de la Manche où l'on attend un titre depuis le sacre de 1966.
Cette deuxième demi-finale est d'ailleurs un match très spécial. Hein.
Ah oui, c'est bien plus qu'un match. Hein. Une relation historiquement conflictuelle entre ces deux pays concernant les Malouines, archipel de l'Atlantique Sud sous pavillon britannique, mais revendiqué par l'Argentine. En 1982, une guerre express avait fait près de 700 morts côté argentin. Depuis, ces derniers se sont vengés sur le terrain avec la main de Dieu signée Maradona au Mondial 86. L'hymne des supporters en garde une trace aujourd'hui. Malouine pour Diego, pour la dernière de Léo, l'Argentine veut faire le doublé. Voilà pour les paroles de cet extrait de la Cuarta Estrecha. Dans ce contexte, hein, potentiellement tendu, la sécurité à Atlanta a d'ailleurs été renforcée pour éviter des affrontements entre supporters.
En espérant que ça se passe bien. Antoine, ce qui devrait bien se passer, ce sont les shows organisés lors de la finale dimanche.
Oui, deux événements dans l'événement à New York, une cérémonie de clôture avant le match avec... Robbie Williams, bien sûr. Il y aura aussi Laura Pausini, Nicole Scherzinger et la présence.
Oh, il sera là?
Eh oui.
Allez.
Tom Cruise, bien sûr. Et puis la partie très US de cette finale, le show de la mi-temps. Au lieu des 15 minutes classiques, la pause pourrait atteindre 30 minutes pour un spectacle annoncé comme grandiose. Pour le moment, seulement certains noms sont déjà connus. Justin Bieber, Madonna, Burna Boy ou Shakira. Allez, c'est peut-être la dernière fois de l'été qu'on l'écoute, hein. Et pour assister à ce show, à la finale aussi un petit peu, hein, les prix sont exorbitants, des tarifs parfois triplés. Hier, un site spécialisé évaluait le tarif le moins cher à 4 500 €, le plus onéreux à 189 000. Okay.
Merci Antoine. Antoine Salva, journaliste RMC Sport. Deuxième demi-finale, c'est ce soir 21h, Angleterre. Argentine à suivre évidemment en direct et en intégralité sur RMC. RMC qui sera en direct des États-Unis dès 20h jusqu'à 5h du matin. Dans un instant, c'est les GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour à peu.
Pauline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent. Alors, je vous cache pas qu'on a un peu tous la gueule de bois ce matin dans les GG après la défaite cinglante de nos Bleus hier. On va en parler dans les grandes gueules, bien entendu. Même Charles Consigny a vu le match, c'est dire. On sera aussi avec Joël Dagossiri. Et puis une petite nouvelle au Philly Rock qu'on va vous présenter. Et Jérôme Roten sera également face aux grandes gueules. À tout de suite.